Salut tout le monde, surprise, on est déjà de retour.
Coucou méga surprise.
Comment va tout le monde finalement? Merci de déjà de regarder. J'espère que cette émission vous a un petit peu manqué. Nous on est trop content de la refaire. Désolé pour le faux espoir, on n'est pas vendredi. Va falloir tenir
moi,
un peu plus longtemps.
Je crois que t'as dit désolé pour faux espoir. On est de retour. On vous a pas laissé sans émission pendant X mois.
Non, j'espère que si vous avez cliqué sur cette émission, c'est que vous êtes plutôt content de l'avoir revenir. Mais oui, on est que mercredi et on a un petit peu changé nos habitudes parce que c'est un spécial playoff. Tout simplement, il se passait beaucoup trop de choses là dans cette post-season pour ne pas revenir. Et on trouvait le timing plutôt bon parce que là, on est dans un entre-deux tours qui fait qu'on a un programme super chargé aujourd'hui qui m'excite particulièrement, Simon.
Ouais, entre-deux tours, un peu effectivement comme pendant l'élection.
Ouais.
Dans le sens où tous les premiers matchs du deuxième tour. Des demi-finales de conf ont eu lieu, ce qui va nous permettre, dans un premier temps, c'est un peu nos news parce qu'on garde quand même les rubriques du Week Pass, mais de revenir sur les deux matchs d'hier, de revenir sur les deux matchs d'avant-hier, donc.
Exactement.
De peut-être même un peu refaire des brackets parce que le mien il est déjà complètement pété.
Ah bah ça, j'ai l'impression que l'entièreté de la communauté, voilà, globalement, est déjà dans le pétrin.
Et tu disais entre deux tours parce que le gros de l'émission, quand même, sera une sorte de bilan.
Ouais.
Premier tour, un peu ce qu'on a retenu, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, ce qu'on a vu venir, ce qui nous a surpris, voilà.
Ça devrait être très sympa. Sans spoiler, on a même une nouvelle chronique dans cette émission grâce à une prod monumentale de Léonce.
Tout
mais
ce que je peux dire, c'est qu'il n'y aura pas de météo des Français parce qu'on s'est dit en playoff, bon, c'est quand même voilà, et qu'il n'y aura pas de météo des Français.
Il y en a qui brillent, attention.
Oui.
Mais on a une rubrique.
Il pourrait être d'ailleurs dans la rubrique. Enfin bref,
c'est vrai. Cette rubrique, on en est content, on espère que ça vous plaira. Mais on n'en est pas là. Et avant de vraiment commencer cette émission, on a une autre méga surprise dont Simon est le principal intéressé.
Pardon, c'était pas le moment de nettoyer mes lunettes.
Non, mais prends tout ton temps.
Oui.
Si, il faut que tu aies les yeux bien clairs pour présenter cette merveille.
Bah, c'est le deuxième cahier de jeu Trash Talk, après celui de l'an dernier. Le cahier d'activité ultime pour tester les vrais basketteurs. Petit bébé, on a passé du temps dessus, notamment avec Bastien. Si je vais dans le sens là, vous verrez rien, mais... Il y a des jeux, alors voilà, toujours un peu pareil ce rubriquage. Là, j'ai ouvert pile sur l'histoire.
C'est magnifique.
Avec
hein.
Monsieur LeBron James. Et par exemple, en face, Robin, il y a,
c'est vrai qu'il
a
LeBron
le
James,
fameux
il en a
jeu
connu.
Des carrières. Si je te dis Portland Trail Blazers, Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers, l'idée est de trouver le joueur en question. Voilà, moi aussi, là, tu vois, comme ça fait un petit moment, je vais vérifier, j'ai une petite idée.
Pas évident comme ça.
Bah, il peut y avoir un peu.
Blazers, Bucks, Cavaliers.
Ouais. C'est bien ça ou j'ai mal lu? Je cherche français, maths.
Comme quoi c'est pour tous les niveaux.
Ah oui, il y a tout. Non mais puis il faut se mettre dedans.
Non, plus simple.
On a du OKC Thunder, voilà, on a des capitales en géographie.
Je sais pas si
capitales.
On voit très
ouais,
bien mais
c'est le problème des fonds blancs, mais on a une rubrique géographie.
Bon, il y a
on
des
a
maths,
retrouver
du
des
français.
Maths pour trouver du français. On retrouve plein de choses, on retrouve une page spéciale QCM sur la bulle, qu'on a appelé Dans la bulle, comme le titre de Diams.
C'est vrai, bien sûr, énorme album.
Donc voilà, le jeu des mascottes, où il faut retrouver le nom des mascottes. On a la rubrique art plastique aussi.
C'est vraiment le quai de vacances dont on aurait tous rêvé gosse quand même. Hein.
Oui,
au collège, là, c'était pas la même chose. Hein.
Non, il n'y avait pas, ça à l'époque. Donc voilà,
félicitations
pour le coup, je vais finir l'instant promo, mais il est donc disponible en librairie. Et dans les grandes enseignes de culture, etc. Vous m'avez compris.
En 4 lettres.
Ouais. Depuis, aujourd'hui même, ça tombe bien. C'est comme quoi les choses sont bien faites. On peut donc vous l'annoncer. Et il est au prix de 12,95€ chez Hugo Sport pour pouvoir. Il y a quand même plusieurs heures de jeu, hein, je pense. Si on s'y met correctement et qu'on se donne le défi de tout faire, je pense qu'on peut passer une. Il peut accompagner une belle petite semaine de vacances.
Je sais que beaucoup de monde avait déjà eu le premier qui était génial. Je l'avais fait moi-même. Mais le deuxième, là, je le trouve vraiment très très beau. Donc,
la maquette est un peu différente.
Vraiment, ouais, félicitations pour le travail.
Bah écoute, merci beaucoup. Moi, j'avais une petite question, Robin.
Dis-moi tout.
Qu'est-ce qu'on mange pas?
Oh waouh, tu me prends par surprise, j'avais complètement oublié. Qu'est-ce qu'on mange pas? Et je n'ai pas du tout envie de manger une paella.
C'est-à-dire qu'en général, tu manges la paella, mais là, par exemple, maintenant, tu ne ferais pas, c'est ça?
Non, c'est parce que vraiment, je suis un grand fan de l'Espagne. Et
oui.
La gastronomie, elle n'est pas super large, pas super, c'est pas le gros point fort de l'Espagne.
On a eu un beau débat de gastronomie le fait que l'arrêt d'accord.
Mais ça reviendra. Mais il y a un moment, on va faire une émission gastronomie de 4 heures, c'est sûr. Et c'est vrai que là, les fruits de mer, moi, je ne suis pas très fruits de mer, crevettes, etc.
D'accord.
Et du coup, la paella, Il y en a qui existent végétales ou avec de la viande et j'aime beaucoup, mais la paella originale aux fruits de mer, etc. J'ai tendance à trouver ça un peu écœurant.
Tu vas te faire
Voilà,
des...
donc.
J'aime bien, tu vas te faire des ennemis
Ouais, moi je
d'entrée.
prends des risques, j'y vais.
Ok.
Et toi alors?
C'est vrai que du coup, tu peux. Je me prends aussi par surprise, puisque
Ah
du coup. Tu
ouais, moi je l'ai pas vu venir, on en a pas parlé avant.
vois. Qu'est-ce qu'on mange pas? Qu'est-ce qu'on mange pas? Je vais essayer d'aller vite. On mange pas. Tu vois les. Comment appeler ça exactement? Tout ce qui est un peu. Non, mais moi j'ai toujours. Je vais parler de ça, mais les. Autant j'aime bien les parts de quiche et tout, mais tout ce qui est un peu amuse-bouche. Amuse-gueule dans les bouffes de buffet comme ça.
Ah ouais, genre les petits trucs d'apéro là?
J'aime pas du tout, moi, en
Ah
général.
ouais?
Ben, en fait.
Ah moi c'est l'inverse, je peux manger que ça, je
Ben,
pense.
alors, c'est pas. Comment exprimer ça? C'est pas que je mange pas, c'est que j'aime bien, mais j'ai tendance. Du coup, c'est un truc où je vais faire un petit truc avec une saucisse, un petit truc avec du fromage fondant, un petit. Et en fait, mon estomac, je mélange tout.
Ouais.
Et en général, je vais pas bien après.
Ah d'accord,
Parce
oui,
qu'en
c'est
plus, tu
ton
peux
ventre qui
par
aime pas
contre
ça.
accompagner ça de boissons à bulles ou de
Bien
choses comme
sûr.
ça, ou de jus de raisin un peu pour adultes.
Oui.
Parfois même avec de la simple eau, mais tu vois le fait que je vais, parce que je suis un débile, je pense, devant ce truc-là, je mélange trop.
Oui, mais tout le monde fait
Et
ça,
ouais, mais
en vrai.
moi ça me
Toi, ça te met
réussit pas.
mal.
Voilà.
D'accord.
Donc du coup, bah, comme j'arrive pas à choisir, parce que je trouve ça hyper dur d'être à un buffet où il y a plein de petites amuse-bouches comme ça, et te dire je vais prendre que les gnocchis ou que le truc au saumon, ou que c'est impossible.
Ouais, donc en fait, c'est un plaisir gustatif, mais pas l'après est plus compliqué.
Voilà.
Je comprends.
Donc on peut éviter. Enfin, il
D'accord.
y a des situations où il vaut mieux éviter.
L'après est plus compliqué, comme pas mal d'équipes dans ces
Ça
playoffs.
démarre bien, dis donc, hein, pour ces playoffs. Vous avez vu, expertise, tout ça, analyse, match-up tactique.
Cahier de jeu, non, on se régale.
Ouais.
Et on va lancer tout de suite du coup avec les news de la semaine.
Oui.
On en a quand même quelques-unes juste
Oui.
avant de lancer, comme on a dit, l'espèce de piscine sur les premiers matchs de ces demi-finales de conférence. Et on en a trois, pour être plus exact. Ça bouge déjà dans les bureaux de NBA avec franchement la grosse information de Masai
Ouais,
Ujiri,
ouais, ouais.
l'ancien architecte des Raptors qui les a menés jusqu'au titre, qui rejoint les Dallas Mavericks. L'ère de Nico Harrison est définitivement terminée, on le savait. Mais gros coup quand même de récupérer Masai Ujiri, je
Oui, ça
pense.
reste un gros nom, même si on était un peu sur une phase. La sortie des Raptors était un peu moins glorieuse, mais c'est quand même l'architecte des Raptors champion, du fameux trade du coup de poker, hein, DeRozan contre Kawhi, en gros. On a vu les premières images là, où notamment cette punchline où il dit qu'il va faire de Cooper Flagg un roi quand il passe dans le vestiaire. Je sais pas si t'as
Non, je
vu,
l'avais
mais
pas
beau
vu.
discours, bah, beau communicant, Masai et tout. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on a la page est définitivement retournée. La page Nico Harrison, Anthony Davis, tout ça. Et finalement, Masai va avoir beaucoup de boulot, mais je pense que le chantier, comme il le dit lui-même, il a la pièce qui est la plus dure à avoir dans cette partie d'échecs,
Le
qui est la
franchise player.
construction d'équipe. Il a déjà le franchise player, et puis pas la version Wish
Non,
de
clairement.
franchise player.
Clairement,
Franchement,
un qui a eu beaucoup
je suis
s'arracher.
très curieux de voir comment il va orchestrer tout ça, quel type de move il va faire dès le début. On sait qu'il y a encore Kyrie dans l'effectif, notamment, des trucs, c'est vraiment, vraiment très intéressant.
Ouais, je pense qu'avec ce marasme qu'il y a eu dans les bureaux des Mavs ces derniers temps, c'est cool d'avoir un dirigeant qui est aussi charismatique, aussi respecté dans la ligue. Après, c'est vrai que la fin des Raptors, c'était compliqué. Il y a eu des moves. Le contrat de Bruce Brown,
Ça a
c'était
duré en
dur.
longueur un peu, ouais.
Ouais, Jakob Poeltl, je crois qu'il lâche beaucoup de picks de draft pour le récupérer. D'ailleurs, j'ai vu des fans des Raptors dire ouais, Masai, si tu veux emporter Poeltl au Texas, n'hésite pas. Mais globalement, il a quand même montré des bonnes choses. Il a déjà construit une équipe pour le titre. Il a l'air serein avec Cooper Flagg, plus que Nico Harrison avec Luka Doncic. Donc, c'est déjà un bon début
Écoute.
pour les fans des Mavs.
Ouais, autre mouvement un peu, j'allais dire bureaucratique, mais c'est pas tout à fait le bon terme, mais dans les bureaux. Bah oui, Robin, bravo. Moi, je t'applaudis.
Bon, on savait déjà qu'Arnie Seva s'était viré. Je célèbre plus pour ça
Oui.
que pour son nouveau remplaçant, qui est assez peu connu pour l'instant.
Oui.
Bryson Graham, pour vous faire rapidement le CV, il a commencé il y a environ 15 ans en tant que stagiaire dans les bureaux des New Orleans Pelicans. Et il a un peu grimpé tous les échelons. Il a fait, je pense, on a fait un article sur le site de Trash Talk. Il a fait coordinateur vidéo. Enfin, il a vraiment fait tout ce qui était possible de faire aux Pelicans, jusqu'à finir, il me semble. Assistant, non, c'est ce qu'il a fait aux Hawks après, mais finir un poste assez haut chez les Pels, et ensuite il est parti un an l'année dernière chez les Hawks en tant qu'assistant general manager. Pour l'instant, au niveau de sa réputation, ça dit que c'est un bon scout.
C'est ça.
Il est responsable un petit peu des drafts de Trey Murphy, de Herb Jones, de José Alvarado, de Yves Missi. Et l'année dernière, le fameux trade entre les Hawks et les Pels pour récupérer le premier choix de draft des Pels côté Hawks, apparemment il était aussi à la baguette, donc il a des bonnes références récemment. Après, on disait un peu la même chose de Karnisovas. On parle quand même d'un mec qui est aux Pels depuis 15 ans, ce qui n'est pas non plus la meilleure franchise de tous les temps. Donc on verra ce que ça donne. bonne réputation. Moi, je m'emballe pas parce qu'on a vu avec Ernie Sovas, c'était censé être le génie derrière les Nuggets à un moment. Donc,
t'as été assez échaudé par tout ça, mais ouais.
Donc, on verra.
Et on va quand même de plus en plus vers. C'est officiel que tout le monde va être.
Ah, Donovan, il est parti, ouais.
Ouais, hein, c'est ça.
C'est lui qui a décidé
doute,
de partir.
Oui,
ouais.
C'est ça. Donovan est finalement parti. Alors que et donc, il est la première, je pense, la première pièce avec la draft.
Ouais.
Dont la loterie d'ailleurs ce dimanche.
C'est ça.
Et dont les Bulls vont avoir deux pics. C'est deux pics loterie ou bad loterie?
Non.
Non, c'est tout premier juste avant la loterie. Enfin, juste après
celui
la loterie.
Celui des Blazers, ouais. Donc,
et votre pic.
15e, 16e choix.
Et moi, j'attends de voir la recherche du coach. Il y a déjà quelques noms qui sortent dans la presse, dans les insiders et tout. Mais ça va être intéressant de voir qui est le coach des Bulls. Et puis, vraie nouvelle ère. On l'avait vu, rappelle-toi, avec le nombre de free agents. De nouveaux rookies, Noah Essengue qui maintenant fait 8 mètres de haut
apparemment il a bien grandi cette année, ouais.
Voilà, donc on pense vraiment qu'une nouvelle ère là c'est pas galvaudé, hein. Une nouvelle ère va commencer à Chicago.
Oh oui, on a vraiment commencé à tanker en fin de saison et là il y a un nouveau roster, on a presque tous nos joueurs en fin de contrat, en fait ils commencent avec un énorme été, le dirigeant, ce sera intéressant et comme tu l'as dit ça partira dès la loterie ce dimanche qui sera commenté en live sur Trash Talk par nous notamment mais aussi potentiellement Bastien, on verra, mais en tout cas ce dimanche sur la chaîne de Trash Talk, on sera là pour la commenter, ça sera très bien.
Lancé, mais c'est vraiment en plein milieu de la nuit, je crois.
Ouais. Bon, okay. Ce sera une petite nocturne, ça va être sympa.
Oui.
Et dernière petite
surtout
news.
Pour voir les Kings avoir le descendre à la draft. Je crois qu'on peut descendre maximum en 7. Donc bon.
Ça va. Et oui, dernière news,
oui,
je disais avant de lancer le résumé des matchs, Jamal Mosley, déjà viré.
Salut.
On savait que ça traînerait pas en cas d'élimination du
Salut.
Magic.
Ah bah le tweet, l'annonce en t'attendu n'a pas t'attendu.
C'est ça. Il a failli sauver peut-être son poste. Non, tu penses que même s'il passait les Pistons.
Non, le tweet il était déjà en brouillon. l'indemnité, elle était déjà comptée dans le budget. Il aurait fallu qu'il aille en finale de conférence. Enfin bref, je sais même pas.
C'est possible, mais c'est drôle parce qu'il a quand même retrouvé du crédit avant de tout reperdre en repardant les trois matchs de suite.
Comme quoi, il n'avait peut-être pas tant de crédit que ça.
C'est possible. En tout cas, déjà, un nouveau coach à Orlando sera à chercher dans les semaines à venir.
Et ça pourrait être, j'ai vu d'ailleurs, ça pourrait être Billy Donovan par exemple, dans les noms cités, mais je pense que c'est plus un souhait ou des gens qui se disent tiens, pourquoi pas Donovan ? Non, mais parce qu'en fait, historique de Floride. Des choses comme ça. Billy Donovan est quand même un coach très respecté en NBA. Mais bon, il y a d'autres candidats. C'est toujours un peu les mêmes noms, mais on dit aussi que le Magic a peut-être tardé parce que notamment des Mike Malone, des choses comme ça étaient disponibles et ont déjà des nouveaux postes. Donc bon, à voir.
On verra, mais d'ailleurs, on va pas faire long là-dessus. Mais les Bulls, la seule rumeur que j'ai vue en termes de coach, c'est un retour de Tom Thibodeau.
Ouais, mais ça, c'est
j'espère
c'est...
que c'est vraiment qu'une rumeur. Mais enfin, respect pour le coach.
Même lui doit en rire, je pense. Ouais. C'est pas,
faut pas retourner avec ses ex, quoi.
Crédible.
Okay. On peut partir sur la piscine de ces premiers matchs des demi-finales de conférence. Le premier qui a eu lieu,
on se les fait chroniquement, on repart de ceux d'hier, on part comme tu veux.
Je pense chronologiquement. En plus, le premier, c'est une masterclass des Knicks. Le score est violent. 39 points d'écart. Il y en avait déjà bien 22, il me semble, à la mi-temps. Moi, j'étais dans le match. Énorme performance offensive des Knicks, assez impressionnant, comme depuis les trois derniers matchs de la série face aux Hawks.
Bah c'est ça, c'est la troisième victoire de suite de plus de 25 points.
Quatrième de plus de 15 points aussi, je pense. Enfin,
Et il y a aussi quand même, moi, je préfère parler de ça tout de suite. Je pense que c'est important. Pour les Sixers, c'est revenu vite après le match 7. Je trouve que c'était là, genre, vous rejouez déjà, les gars. Et je pense qu'ils se sont dit la même chose. Et je crois quand même. Alors, le calendrier n'excuse pas tout. C'est pas une défaite de calendrier non plus. Parce que les Knicks ont fait des très bonnes choses, une fois de plus. Mais tu sentais qu'il n'y avait pas de second souffle dans les Sixers. Et qu'il y avait aussi un manque d'énergie certain, notamment Embiid. Que j'ai trouvé comme emprunté sur le match-là par rapport. Et un peu fatigué. Et Embiid qui s'est fait, je te repasse la main à Romain, mais qui s'est fait plus qu'exposer dans le pick and roll.
Ouais.
Où en fait, tout simplement, les Knicks ont enchaîné des pick and roll plutôt axiaux avec Brunson et en gros le mec défendu. Alors en général, c'était Towns, mais pas toujours, mais en général, c'était Towns.
Qui défendait sur Embiid, si
Qui défendait sur Embiid pour que y ait en fait Embiid ait un choix. Est-ce que je drop Et Brunson est très bon là-dedans parce qu'il va savoir prendre l'écran au large pour en fait se caler à 3 points ou alors attaquer l'intervalle, lâcher un flotteur ou alors fixer, tourner de l'autre côté, puis du coup, Embiid. En fait, au lieu de le prendre là, il le prend là, et puis du coup, Embiid est hors du play, et il y a l'accès au cercle qui est ouvert. On a vu quasiment toutes les possibilités qu'offre ce dispositif. Et Embiid, c'était vraiment un peu compliqué, notamment en fin de match.
En fait, tu l'as dit, les Sixers comme Embiid, ça tient un gros carton. Parce que dans le premier carton, c'est drôle, parce que les Knicks rentrent tout. Ils sont vraiment hallucinants, d'ailleurs. C'est derrière Brunson. Brunson, il met 27 points à la mi-temps. toute l'attaque se décante autour de ça, mais tout le 5 majeur est en réussite. Même Juice McBride, quand il rentre, il met des 3 points. Ça attaque bien, mais en fait, tactiquement, les Sixers qui font pendant le premier quart-temps, c'est intéressant et ça peut quand même donner de l'intérêt déjà pour le reste de la série. Ce ne sera pas 40 points à chaque match, ils n'auront pas toujours cette adresse. Je crois qu'ils shootent à 67% sur le match.
Quelque chose comme ça.
Ouais. Bah là, on le voit déjà, field goal, c'est un peu hallucinant. Mm-hmm. 63%, pas 67, autant
et
pour moi.
Et quand même plus de 50% en 3 points, en en prenant 37, c'est assez, c'est plutôt cool.
Exactement. Mais dans le premier quart-temps, ouais, tu disais donc que Towns défendait sur Embiid. Ça n'a pas duré si longtemps parce que Embiid, la tactique était claire, faire des fautes à Karl Anthony Towns qui en fait deux rapides et vraiment tu sens que Embiid il a ce pouvoir-là quand même sur Towns, ça lui est arrivé de le fold out en 16 minutes dans le passé et il a réussi à en faire deux très rapidement et du coup il y a eu une entrée de Mitch Robinson et dès le premier quart-temps, ça je trouvais ça, c'est pas du très beau basket, certains vont trouver que c'est pas... éthique. Moi je trouve juste que stratégiquement c'était très bien joué de la part de Nick Nurse de faire du hack Mitch Robinson dès le premier quart-temps. Mitch Robinson 0 sur 4 au lancer franc d'entrée, c'est une catastrophe.
C'est plus moins 6 sur 4, c'est dur hein, les lancers de Mitch Robinson.
Et du coup avant la fin du premier quart-temps, on a Towns qui a deux fautes, on a Mitch qui est sorti par son coach parce que sinon ils n'allaient pas mettre un point, et on a l'entrée de Ariel Hucporti qui pareil fait une ou deux fautes avant la fin du premier quart-temps, et du coup on se dit très rapidement oula, ok, les Knicks rendent tout pour le moment, mais sur la longueur ça peut être très compliqué, notamment à l'intérieur.
Oui.
Au final l'attaque a continué à dérouler, comme on a dit, Embiid a perdu du jeu et en défense c'était compliqué, mais ce sera un élément très intéressant sur la suite de la série.
C'est ce qui est un peu arrivé à Boston, que tes pivots tour à tour soient inefficaces pour des raisons X ou Y contre Embiid, soit parce qu'il est tout simplement trop fort, soit parce qu'il leur fait faire des fautes. Mais c'est pas pour autant, tu vois, que... est-ce que c'est un avantage ? C'est un avantage majeur, mais est-ce que ce seul avantage-là va permettre aux Sixers de gagner des matchs que là-dessus ? Après match, j'ai l'air de dire non, même si la fatigue joue en jeu, parce que de l'autre côté, les Knicks font les choses très bien, il y a l'adresse, mais moi je trouve défensivement aussi, Bridges notamment, en défense sur Maxi, a été vraiment... déterminant, il a plus que gêné.
Son début de playoff était compliqué, mais il fait que monter en régime, Michael. Ouais.
Et donc il retrouve, il est bon. Maxi lui met évidemment une vitesse, mais Bridges avec ses bons instincts défensifs, sa longueur de bras, son engagement freine quand même Maxi. Surtout pour parce qu'on va pas faire une heure sur chaque match. Match là, il y a quelque chose qui est apparu évident, c'est que les Sixers potentiellement ont quand même encore de la marge. Ils font ce premier match fatigué, etc. Ils font pas un super bon match.
Non, Maxi est pas très agressif.
Là où les Knicks font un match, tu l'as dit, notamment autour de l'adresse et tout, on ne peut plus réussir. Maintenant, donc tout ça pour dire, les Sixers ont l'air de l'avoir de la marge, mais ce qui joue aussi contre les Sixers, c'est là de nouveau, ils jouent ce soir par exemple. Et même là, je me dis, ça enchaîne pour les Sixers. Et tu sens quand même que je veux pas leur porter la poisse. Au contraire, c'est juste réaliste, je trouve, de mettre ça sur la table. À un moment ou à un autre, on sent que c'est ce qu'on appelle un plafond de verre, ou qu'ils vont taper dans le rouge, hein, comme le plein, quoi, tu vois, comme la petite aiguille de l'essence. Et tu sens quand même que là, ça pourrait être pendant cette série.
Là, au vu du passif, de toute façon, de Joel Embiid, de Paul George, qui est excellent pour l'instant sur ses playoffs, c'est pas fou de penser qu'à un moment, ils vont peut-être être dans le rouge. On verra.
Moi, j'aimerais bien une série en 7. Ouais. Pour revivre un match 7 avec les Sixers. Là, je le place maintenant parce que j'ai pensé. Le match 7 qui, apparemment, alors j'ai pas pu vérifier la photo, mais c'était un tweet que. Match 7, Celtics, Sixers, un des plus vus, voire le plus vu, etc. Parce que,
il y a de bonnes audiences, je crois, sur ces playoffs en général.
Ouais. Non, franchement, si cette série peut aller en 7 et que les Sixers. Ou en tout cas, si elle va pas en 7, que les Sixers, c'est pas genre pète en vol physiquement, et notamment Embiid, ce serait vraiment dommage.
Non, moi je suis certain que sur la suite les matchs seront plus serrés, et en parlant de matchs plus serrés, le deuxième de la nuit entre les Wolves et les Spurs l'était beaucoup plus, comme vous le voyez sur ce score final. Il y a pas mal de choses à dire sur ce match.
Il y a pas mal de choses à dire, même si déjà beaucoup ont été dites.
Oui.
Un
respect aux Wolves, hein, encore.
Et redites. Ouais, respect aux Wolves qui commence à être un peu flippant quand même, parce que... Alors, il y a encore, DiVincenzo out, on va prendre tout ça tout de suite sur ce match-là. Edward sort du banc. Dosunmu n'était pas là. Dosunmu qui pourrait revenir là dans la série, si j'ai bien compris.
Oui, ça fait deux matchs qu'il est questionable, il revient pas. Ça a l'air d'être quand même un vrai souci au mollet, mais c'est du day-to-day. Quoi, donc.
Et Edward qui est sorti du banc pour faire un peu presque son Willis Reed, parce qu'on voit quand même qu'il joue sur une patte. Hein, qu'il joue bien sur une patte. Mais c'est ça le paradoxe dont il joue. Honnêtement, tu es d'accord avec moi, on voit qu'il joue sur une patte par rapport à d'habitude.
Il se tient le genou régulièrement pendant le match.
Mais qu'est-ce qu'il est fort ?
Il y a le quatrième quart-temps qui est exceptionnel, mais même au début, en fait, il est propre. C'est un peu fou, parce qu'on dit, il y a 9 jours avant, son genou était en équerre. C'était son meilleur match des playoffs là, contre les Spurs pour l'instant.
Peut-être.
C'était vraiment de la réussite. Enfin, il allait chercher les points en drive, mais même à mi-distance, il était assez impressionnant.
Défensivement, activité.
Je vais un peu. Enfin, je vais rapidement sur le quatrième quart-temps. On a vu Rudy Gobert être sorti parce que le but c'était aussi d'écarter
choix tactique.
Victor Wembanyama de la raquette. Bah, Rudy Gobert a fait un super début de match, même sur Victor, etc. C'est vraiment juste. Le but c'était d'éloigner Victor. Et
alors d'éloigner dans le sens défensivement on parle oui. Hein, c'était oui pour être clair
merci et Anthony Edwards
de mettre 5 shooters à 3 points dont en gros Nasrid et que Victor était au large et ça ouvrait d'un coup des lignes de drive de l'accès au cercle etc
et il met 11 points en un quart temps Anthony Edwards en fin de match c'est lui le gars déterminant même si t'as Mike Conley aussi qui met des gros shoots t'as Terrence Shannon qui pendant tout le match drive
j'ai
en continu
très impressionné par Terrence Shannon
ah ouais non mais depuis qu'il est rentré dans la rotation quoi de Chris Finch là il, c'est incroyable et puis il le dit il s'est fait contrer quelques fois par Wemby on va reparler des comptes de Wemby mais il l'a dit sur Twitter je vais quand même continuer à l'attaquer sans cesse parce que c'est mon jeu et à un moment je lui dunkerai dessus ça prouve un petit peu c'est vraiment la mentalité des Wolves et sinon c'est assez impressionnant ce qu'ils ont fait.
Ah, mais revenons là-dessus tout de suite Robin si tu le permets parce que il y a un vrai parti pris on va dire des Wolves qui explique pas mal le match de Victor. Je vais relier les éléments. Les Wolves, en fait, Terrence Shannon, quand il dit ça, il dit en gros, je vais attaquer 40 fois Victor, il va me contrer 39 fois, puis il y a une fois Thomas sur sa tête. Victor, même si la stat a été un peu généreusement dans le comptage, on l'a vu, Finch a d'ailleurs bien fait de le remarquer en disant il y a la moitié des contres, alors apparemment ce serait. Il y a un papier d'ailleurs sur le site, je
ouais,
crois.
Bon, moitié va un peu loin, mais il y en a 3-4.
Non, mais il y en a 3-4 qui sont discutables. Maintenant, sur d'autres perfs à 6-7 contres, c'est pas la première fois que des fois c'est un peu. Voilà, ça arrive. Mais le match, en gros, voilà, le match défensivement de Victor, il est énorme.
Oui.
Mais en fait, il est énorme, c'est paradoxe, pas paradoxe, mais il faut bien disséquer ça. Il est aussi énorme parce que les Wolves font quelque chose d'assez surprenant et presque paradoxal. Ils vont pas du tout l'éviter, ils sont pas dans les joueurs, sauf sur la fin de carton où justement ils sortent ça de cadre. Mais en fait, ils l'attaquent. Et s'il fait 12 contre, c'est aussi parce que les Wolves l'attaquent 36 fois. Là où des équipes vont l'attaquer que 2 fois, et en fait, bah, il va faire 2 contre, et voilà. Les Wolves se sont dit, on va le défendre, on va l'attaquer tellement, tellement, tellement qu'on va le fatiguer défensivement. Et en attaque, il aura. Et offensivement, ça va le limiter. En plus, on va lui donner que du 3 points. Et c'est pas encore le plus grand shooter à 3 points. Donc, s'il manque de jus, parce qu'il dépense tout son jus, toute son énergie, il en met plein. Il en utilise plein, pardon, défensivement.
Bien sûr.
Et qu'il va pas avoir. Il va. En plus, on lui donne rien de facile. On le fait dribbler au large. On lui fait prendre des 3 points. C'est une très bonne stratégie qui a permis aux Wolves qui a enfermé Victor dans un jeu, je trouve, un poil caricatural, mais même défensivement. Parce qu'en fait, défensivement, il était très bon dans la protection du cercle, où voilà, comme toujours, et il contre des tirs qui n'existent même pas tellement les mecs ont peur. Par contre, d'un coup, t'as vu, quand ils ont joué le 5-out et qu'ils l'ont sorti et qu'ils ont fini de l'attaquer, mais de le contourner, c'était presque même surprenant de se dire, ah bah en fait, là, son impact, tout de suite, il est c'est pas qu'il est réduit à néant, mais c'est pas du tout la même histoire.
C'est ça, pour ceux qui n'auraient pas vu passer, on rappelle, il a fini à 11 points, 15 rebonds, 12 contres.
0 sur 8 à 3 points.
Premier triple-double de Taka en playoff et record de contre all-time sur un match. Ouais. Mais en effet, 5 sur 17 au shoot, 0 sur 8 à 3 points, il y a des mauvais choix dans le clutch.
Très peu de paniers près du cercle, très peu de paniers faciles, très peu des prises de balles les unes après les autres en fait à l'arrêt, dernier à 3 points.
Mais il l'a dit lui-même, en attaque, c'est un match raté, en fait. Hein. Tout simplement, il doit faire mieux.
Je suis d'accord, mais en fait, c'est aussi un match réussi de la part. Les Wolves l'ont fait déjouer. C'est bien de sa part de dire c'est un match raté, mais je trouve que. Il va pas les Wolves l'ont fait déjouer avec un vrai parti pris de. En fait, on va t'agresser offensivement. Alors, ok, tu vas contrer. Mais déjà, les Wolves ont mis quand même des points dans la raquette aussi. Parfois, c'est passé. Parfois, il a provoqué des fautes. Parfois, bah, en fait, il. Sur l'impact physique,
Julius Randle
lui a fait 2-3 Gortastrine. Alors c'est à moitié illégal, mais le truc où il l'enfonce sous le cercle pour que l'autre puisse mettre le lay-up pendant que tu vois ce move, j'en vois au moins un dans le match.
Même Randle physiquement, il fait du mal à Keldon Johnson quand il est rentré, etc. Enfin, il finit à 21 points de rebond, il fait un très bon match aussi.
Et ça, c'est l'autre gros point tactique, parce qu'il y en a deux cette saison. Les Spurs, et ça on l'a vu tout de suite, ont un vrai problème défensivement. C'est-à-dire que en général, pour aller vite, les Wolves jouent avec Gobert, Randle ou Nasrid, Randle ou voilà.
Même McDaniels.
Et même McDaniels. Donc il y a toujours un poste 4, on va dire Julius Randle en général. Et c'est ce qu'ils ont choisi aussi en fin de match. Ils ont accompagné leur 5-out avec du bully ball de Julius Randle, qui d'un coup est allé chercher l'intervalle, jouer deux au panier, un peu à l'ancienne, se retourner, mettre des coups de cul, retourner sur des hooks, des petits shoots. Et en fait, d'autant plus en l'absence de Carter Bryant, qui est quand même un peu physique et intense, même s'il est petit.
Non, il a manqué.
Qui tu veux, en fait, dans le défensivement des Spurs, c'est un mismatch en faveur des Wolves.
Champagny qui fait une énorme fin de match. C'est lui qui prend 3 ou 4 rebonds offensifs pour garder de l'espoir du côté de San Antonio, le dernier shoot qui est manqué. Il y a tout un débat autour du temps mort. J'ai vu tes réactions sur Twitter, on est assez d'accord. Au final, ça finit par un bon shoot, quoi, des Spurs qui peuvent rentrer. Ils peuvent hold up ce match, mais je parle presque d'hold up parce que vraiment sur la rencontre, autant l'écart, c'est jamais plus de 2 points, quoi. C'est vraiment au couteau. C'est un écart de 5 points était énorme dans ce match. Donc ça aurait pas été. Bon, j'ai été un peu fort sur le mot hold up. Les Spurs qui le gagnent, ça aurait pas été une surprise dingue. Mais pendant tout le match, t'as quand même l'impression que que Minnesota est meilleur. Dans le quatrième quart-temps, ils prennent un peu le large. On a Fox qui rate complètement son match, on en a parlé.
Si, je suis d'accord avec toi. Minnesota. En
non,
fait,
ce que je
que
veux dire, c'est que Minnesota,
Minnesota,
il le mérite vraiment, quoi. Le
oui,
shoot de
oui,
San
oui.
Antonio rentre, on se dit, oh, il s'en sort bien de le prendre celui-là, alors que pour un Minnesota qu'il gagne, c'est normal.
En fait, Minnesota est pas meilleur, c'est le mot, mais je voudrais finir. En fait, Minnesota est plus à l'initiative de ce qui se passe dans le match.
Ouais.
Le scénario du match est plus parce que Minnesota fait des vrais choix. Minnesota impose un peu sa loi. Mais sans forcément, c'est là où c'est paradoxal aussi. En fait. C'est pas comme si Minnesota avait gagné de 20 points, alors que t'as des moments où tu te dis, là, et même en parlant du match, on a presque l'impression qu'on discute d'une victoire de 8, 12 points de Minnesota, tellement je trouve ils ont imposé le truc, et les Spurs avec un très mauvais Wemby, avec un Fox offensivement en tout cas, et même défensivement, moi j'ai entendu, défensivement il était incroyable. Ouais, mais c'est aussi parce que Minnesota, je vais pas le refaire, mais l'a agressé. Donc un match où il a subi en fait les événements Wemby, un match où Fox est pas bon, il l'a reconnu lui-même, vraiment pas bon.
Castle en deuxième mi-temps, c'est compliqué.
C'est un peu poussif
Dylan
sur certains
Arthur, énorme
passages.
par contre.
Ouais, Dina. Bah ça c'est bien, les Spurs en général, il y en a toujours un des trois.
Ouais.
Et d'ailleurs, ça commence à dire que Harper pourrait. Enfin, Harper
Il est
Fox, là,
hallucinant.
Il y a un espèce de
Harper.
duel au niveau des minutes. Parce que le petit problème des Spurs, et c'est là où la construction d'équipe, je pense, est encore imparfaite. Et ce qui fait que notamment moi, je ne vais pas mettre dans le bracket. J'ai une certaine limite à terme, je
On en
les avais
reparlera.
mis en finale de conf. T'as trois arrières qui sont en config playoff, Fox, Harper,
Kessel.
Castle. Pas toujours évident de les aligner les trois en même temps, donc à un moment il va falloir choisir, et t'as pas de vrai poste 4 en fait.
Non, pour le
Quand t'en as
moment.
un en face, la plupart des équipes n'en ont pas, mais sauf que les Wolves ils en ont un, voire deux avec Nazrid.
C'est ça, en fait, moi je suis content que Minnesota ait gagné ce match parce que je trouve que ça vraiment ça annonce une série longue qui va être disputée, qui va être tactique, physique, intense, tout ce qu'on a vu. Et j'ai déjà hâte de la suite.
Oui, mais il faut gagner le match 2.
C'est
C'est
ça.
pas ce que je veux dire, mais il faut vraiment gagner le match 2. Normalement, il y a de quoi faire, il y a des ajustements. On peut imaginer que
Les stars
Wemby
peuvent être que meilleurs.
soit va se retrouver plus près du cercle et ils vont faire, je sais pas, il y a plein de trucs à faire, des pick and roll inversés où c'est lui qui porte la balle, c'est un petit qui va lui faire l'écran. Peut-être même du Iverson cut, mais pour un grand où il passe un deuxième écran, il vient avec pour avoir un tout petit peu d'avance sur son défenseur. Je sais pas, il y a plein de trucs à imaginer. Peut-être même que sur les 3 points, en fait, s'il en met 2 sur 4 au début, ça oblige Minnesota à jouer différemment. Mais faut pas le paumer, hein.
Une autre équipe qui a intérêt à pas paumer son game 2, c'est Cleveland qui continue
Ouais.
à ne pas être très convaincant dans ses playoffs.
Ouais. Ouais.
Bon, je commence par là alors que j'aurais pu dire déjà très bonne première mi-temps des Pistons. Je pense peut-être non, j'allais dire la meilleure de ses playoffs. La deuxième mi-temps de la remontée face au Magic est
Oui,
extraordinaire, mais
c'était
c'est
le
aussi du
match
fait.
6 que Orlando choque à la maison.
Mais c'est aussi du fait du Magic. Mais là, on a une première mi-temps qui est très solide des deux côtés du terrain, qui
Donc
est.
c'est pas mal.
Surtout en défense, notamment, qui arrive très bien à étouffer les Cavs, notamment James Harden qui fait beaucoup de pertes de balles en première mi-temps, enfin beaucoup de pertes de balles tout court. Je crois qu'il y en a 12 en première mi-temps, 20 à la fin du
Alors,
match.
Ben,
Pardon, ça c'est toute l'équipe, 12 en première mi-temps et 20 à la fin du match. Je crois qu'Harden finit à 7 pertes de balles.
on peut aller le chercher, hein.
Oui, ouais, c'est vrai que je peux aller le montrer. Mais
Je
donc,
crois que c'est 7.
turnover 7, c'est ça,
Et
de
tu
James
peux me
Harden.
dire, juste pour être taquin, il marque combien de paniers réussis?
6.
D'accord.
Ouais, et c'est surtout dans le dernier quart-temps. Mais ouais, la première mi-temps, justement, ils arrivent bien à annihiler l'attaque. Il y a Donovan Mitchell qui commence pas trop mal, qui va s'éteindre par la suite. Mais le reste de l'attaque des Cavs, c'est très compliqué en première mi-temps. Mais c'est aussi grâce à une très belle performance, et surtout grâce à une très belle performance des Pistons pendant 24 minutes en défense.
Ouais. Il y a un côté, Harden l'a dit d'ailleurs, enfin, ils sont plombés par les pertes de balles en fait.
Ouais.
À ce niveau-là, 19 pertes de balles, 31 points sur lesquels concrétisés par tant, enfin que Détroit, je me suis très mal exprimé. 19 pertes de balles et ça a donné 31 points pour Détroit en gros.
Sachant que le match est perdu de
Dans
7
un match,
points,
voilà,
10
c'est pas
points.
possible, c'est beaucoup trop. C'est un peu leur
Péché
talon
mignon.
d'Achille pendant ces playoffs parce qu'ils en sont quand même déjà donc 141 ballons perdus en 8 matchs à une moyenne de 17-6. C'est évidemment le plus gros total sur 8 matchs depuis 96. Hein.
Ah,
C'est une
96,
machine à
ouais, quand
perdre des
même.
ballons là, les Cavs. Et en fait, même si du coup leurs attaques sont. En plus, leur attaque est pas incroyable. Mais alors, si en plus tu l'amputes de, je sais pas, 10%, 15% tout seul de tes possessions,
Ouais, ça va être
ben
compliqué.
c'est très compliqué. Pourtant, ils ont. Je suis surpris quand même, je suis surpris, même si on sait qu'Harden peut perdre des ballons. Même si... Il y a des, il y a des, il y a leur attaque là, elle manque de synchronisation. T'as l'impression que c'est un peu chacun leur tour. Elle manque de rythme et surtout, je trouve, elle a peut-être, c'est là où on le voit, elle a peut-être manqué de temps pour se mettre en place. Et Atkinson a l'air de commencer à un peu appuyer sur les touches au petit bonheur de la chance. Je dis pas, je m'exprime peut-être un peu, voilà. Notamment la fin de match où il sort Allen parce qu'Allen fait un mauvais match, mais il met Mobley pivot seul et il fait des 5. Il y a des trucs un peu chelous, je trouve. Je sais pas,
Ouais.
ils sont en train. J'ai un peu peur, moi, pour les Cavs. J'ai l'impression qu'ils sont un peu en train de perdre le fil.
Allen joue que 18 minutes, tu as dit, et c'est vrai que sur cette
Ah, il fait
attaque,
un sale match.
c'est dingue qu'avec autant de joueurs de talent, le meilleur joueur offensif du match d'hier, c'est Max Truss, quoi. À
Ouais,
19
non,
points
mais
en
ils
sortie de
ont.
banc.
Mitchell fait son match dans le sens où il va aller se créer de temps en temps, puis avec son fameux move là qui passe vraiment. C'est incroyable, il le
En
passe
plus,
plusieurs fois.
mauvaise nouvelle pour l'attaque, excuse-moi, mais pendant que j'y pense, Sam Merrill se blesse hier aux ischios. Donc, en plus, ça enlève du shooting pour la suite de la série.
Ouais.
Non, c'est assez compliqué, et peut-être pour parler un peu plus des Pistons.
Oui, parce que les gars, bah les Pistons, moi j'ai beaucoup aimé leur match, parce qu'en fait j'ai aimé leurs deux premiers. La première mi-temps, elle est pleine de maîtrise, ils jouent super bien. Et en fait, la deuxième, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils paniquent pas.
Ouais, ça remonte quand même bien. Je crois qu'à celui
Ouais,
de la fin,
mais
les
les
Cavs reviennent
Pistons
à
ne
5
paniquent
points.
pas.
Non.
C'est un match, j'ai l'impression qu'en fait, c'est bête ce que je veux dire, mais on. C'est un match qui aurait eu lieu au début des playoffs avant qu'ils voient l'élimination les yeux dans les yeux là. Parce que depuis
Ouais,
qu'ils sont
bien sûr.
remontés 3, depuis qu'ils étaient à 3-1 contre Orlando, c'est 4 victoires de suite. Et t'as l'impression que c'est un peu Nietzsche hein, et tout, mais qu'ils ont vu la mort en face là, et que depuis ils ont compris que ça pouvait vraiment leur arriver. Ils se savent mortels. Et du coup, ils jouent avec une intensité, une urgence, ils l'ont tout dit. Mais je pense que c'est réel. Ce match-là au début des playoffs, je pense qu'ils paniquent, ils se font remonter, par exemple.
Et puis c'est pas le meilleur match de Kyle, mais il prouve une nouvelle fois que c'est le patron, parce que au début de match, il y a beaucoup Tobias Harris et Duncan Robinson qui font du bien en attaque, mais la fin de match de Cade, elle est à nouveau très bonne, alors que sur l'ensemble de la partie, c'était peut-être plus compliqué. Même Jalen Duren dans le Money Time, c'était mieux.
Ouais.
Il y a un bon choix de Bickerstaff, c'est à noter, avec un Dennis Jenkins qui fait un super match et qui laisse en fin de match à la place d'un Oscar Thompson qui pourtant défensivement apporte tellement à cette équipe. Mais hier, Jenkins, c'est un des meilleurs joueurs des
Ouais.
Pistons.
Oscar Thompson, le problème, c'est. Alors, il peut être aussi fort qu'il veut défensivement, et d'ailleurs,
Il est dans les meilleurs meilleurs.
Ah, c'est. Et puis,
Moi,
alors,
j'ai
il rend la
très très
défense
haute
tellement
estime quand même.
spectaculaire et jouissif, quoi, c'est fou. Mais c'est vrai qu'en attaque, il permet. C'est Mobley en général qui, du coup, entre guillemets, défend pas sur lui. C'est sûr, mais permet de flotter partout, et c'est compliqué. Il faudrait qu'il apprenne un peu à faire ce que fait McDaniels, par exemple, qui prend pas forcément des 3 points, mais qui attaque le cercle, ce que font des écoles. Parce que je trouve qu'il a les qualités athlétiques pour. Justement, pas partir comme un bourrin, mais partir un peu à l'intervalle, faire des feintes, servir de la longueur, de son pas.
S'inspirer de son frère un petit peu d'une certaine
En
manière.
fait, oui, tout simplement. Et peut-être développer un peu des push-shots ou des trucs, presque des trucs, tu sais, d'intérieur un peu hybride, là, de petit intérieur comme ils font. Il y a des mecs aux Pistons qui ont ce genre de trucs. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'à 93 partout, ils retrouvent les Pistons, quand ça revient là vraiment. 3 fois de suite, en fait, c'est pas tout à fait que du pick and roll, mais c'est connexion Cunningham-Duren, 3 dunks. On retrouve tout de suite Duren et ça en fait petit à petit. Je dis pas que Duren va refaire une grosse série parce que je pense que voilà, il y a des limites offensives qu'on a vues, il
Ah,
a
c'est compliqué
explosé.
là, quand même, je te
Ouais,
jure.
c'est
Même si,
compliqué,
vraiment, comme tu l'as dit, la fin de match hier est
mais
très bien.
la connexion est moins coupée que contre Orlando, je dirais. Il est moins. Moi, contre Orlando, il était vraiment. C'était vraiment Laurence d'Arabie seul dans le désert là. Je l'ai trouvé moins à la peine quand même dans ce premier match.
Ouais, et puis c'est aussi un peu grâce à lui que, on l'a dit, Jarrett Allen, il joue que 18 minutes en ayant fait 4 fautes. C'est que quand même, Jalen Duren. Il a que 4 lancers, etc. Mais
Ouais,
lui donne un impact physique tout le match qui est compliqué. En plus, Isaiah Stewart avait du mal là, dans ce rôle un peu hybride, même si les stats sont
moi
plutôt bonnes.
j'ai trouvé Duren assez solide, hein, franchement.
Ouais, ça.
Pas perdu comme contre Orlando.
C'est ça.
Je pense qu'on peut revoir Duren sans. Ah, il va pas tourner en 20-20, mais revenir un petit peu, tu vois. Gagner son match-up contre Jarrett Allen sur la série, alors qu'il l'a perdu contre Vince Carter, quoi. Voilà, en gros.
Ça va être intéressant. Premier match qui amène plein de questions, mais pour l'instant qui rassure un petit peu sur le niveau de ses Pistons. Une équipe qui n'a pas besoin de nous rassurer beaucoup plus, c'est le Thunder, hein,
Voilà.
pour finir. Voilà, on peut
Est-ce
passer au trophée
qu'on.
de la
Oui,
semaine.
non, franchement. Non, mais en vrai, c'est même pas drôle. Si, LeBron fait un bon début de match.
LeBron fait très bon
Et
match.
les Lakers, en fait, tiennent
Enfin,
relativement
il
la
fait un
route.
bon
Mais
match
tu.
en vrai, LeBron, hein.
Ouais. Non, il entame bien le match et il fait un bon match. C'est le meilleur joueur des Lakers. Le problème, c'est que c'est censé être Austin Reaves de deuxième et que depuis sa blessure, il est revenu. Je sais pas s'il est revenu trop tôt ou s'il y a le manque de rythme ou quelque
Premier
chose.
match, c'est pas si mal, même s'il n'y a pas d'adresse et tout, mais là, hier, c'était compliqué.
C'est insuffisant.
Et de l'autre côté,
Ah,
bah.
c'est pas de sa faute. Non, mais je veux dire que vu l'état de l'équipe des Lakers. Il faut un gros Austin Reaves et j'ai pas l'impression. l'impression que c'est peut-être sur un match et quoi, mais de là à retourner la série, enfin bref, on verra, on va pas déblatérer sur cette série.
Mais sur les Lakers, il y a aussi Ayton qui fait un très bon début de match avant d'être coupé par, pour moi, le meilleur joueur du match, Chet Holmgren, qui est hallucinant des deux côtés du terrain.
Parce que Shai est pas bon, non. On peut le dire. C'est assez rare pour pouvoir le dire. Shai met moins de 20 points, Shai perd des ballons, un peu en rythme.
J'allais parler des pertes de balles encore une fois, mais il en perd 7 et. On se rappelle quand même que la défense des Lakers a été très forte pour aussi en provoquer à Houston. Notamment, il y a un match où KD, il en perd 9.
Smart là-dedans est toujours aussi assez exceptionnel.
Donc, c'est quand même une force des Lakers. Mais même malgré ça, ça suffit pas. Parce que même hier, quand t'as un Shai qui sera jamais aussi mauvais, c'est pas horrible ce qu'il fait, mais c'est mauvais pour ses standards. T'as Jay Mitchell qui met 18 points. T'as Jared McKinnon qui sort de sa boîte en fin de match et qui envoie 4 tirs à 3 points. Et au final, ça gagne de quoi, 15 facile. Ouais, 18.
Au final, ça gagne de 18, 90-108. Ça se fait au fur et à mesure, et puis ça lâche en fin de match, les Lakers. Mais je veux dire, c'est même pas si près, si loin. C'est que il y a un monde
d'écart
entre les deux équipes. Mmh. Alors, on verra. On dit qu'une série commence vraiment quand une équipe gagne à l'extérieur.
Bah rendez-vous match 3.
Bah, voilà, quoi. On va voir au match 3 quand OKC va gagner aux Lakers, et puis c'est tout, quoi. Ou si vraiment ils perdent le match 3. En gros, ce que je veux dire, c'est tu vois le Thunder perdre les deux. Ouais. Parce que c'est ça qu'il faudrait. Il faudrait que les Thunder perdent les deux à LA pour qu'ils série.
Non, bah
sinon
non.
Alors si ça se trouve on dit ça, puis en fait les Lakers vont gagner de 40 à Oklahoma.
Ça, ils ont déjà surpris tout leur monde en battant Houston. C'est déjà des playoffs réussis sans Luka Doncic. Mais là c'est ça. Bah, prenez-moi au mot, citez-moi dans 2 semaines si vous voulez, mais ça suffira pas contre ce Thunder, quoi, je pense.
Avant de passer au trophée, juste vite fait, tu.
L'image.
L'image. Oui, oui. L'image de la semaine, complètement.
Autant pour moi.
J'étais là-dessus, on en parlait tout à l'heure, l'image de la semaine, on a choisi ça, l'image de la semaine. Enfin, j'étais les habitudes.
L'image des playoffs.
L'image du premier tour des playoffs, on va dire, l'image des playoffs. Bah, c'est quand même cette position et cette souffrance genou de Joel Embiid, et puis c'est un peu.
La vidéo, elle est dingue. On voit ces gens qui bougent, c'est presque des spasmes.
Ça rappelle quand ses yeux clignotaient là, il y a 2-3 ans.
C'est vrai.
Ça rappelle tout ça. Mais non, on voulait revenir vite fait au-delà de l'image sur Embiid pour dire deux, trois petites choses très simples. Mais moi, je pense qu'il a retourné la série contre Boston. Hein, c'est très clair. Ouais. Je trouve quand même que c'est toujours aussi bluffant la capacité qu'a ce mec à dominer en NBA.
À peser sur les défenses.
À peser sur les matchs.
Même s'il n'est pas bon, il pèse. Même le match hier, on l'a dit, avant-hier, il n'est pas bon, mais il pèse tellement fort quand même au début de match sur la défense de New York.
À attirer la lumière aussi, mais attirer l'attention, à en jouer. Enfin, il y a un acteur phénoménal. Hein, mais un acteur dans le sens d'un performeur, c'est-à-dire le joueur, le personnage, le troll aussi, Embiid, il le sait, mais aussi le compétiteur, parce que finalement. C'est Rocky, quoi. Il revient, il y a l'arcade qui est comme ça, il y a la lèvre qui est bleue, qui est tout machin, il y a le genou. Et sa jambe, à un moment, t'as l'impression, enfin, je sais pas, elle bouge toute seule, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'elle allait se mettre à parler. Mais c'est quelque chose, quand même.
Je pense que sa jambe parle, elle dit pas des belles choses, hein, franchement, avec ce qui lui fait subir depuis des années. Mais oui, hallucinant. J'ai les moyennes ici, 28 points, 9 rebonds, 7 passes décisives. Je l'ai trouvé très bon au playmaking sur cette fin de série notamment. Bon, 44% au shoot, il y a aussi un 15% à 3 points. Tout n'est pas parfait, mais oui, il a changé le scénario d'une série. Il a enfin pris sa revanche sur une franchise. Il l'a dit lui-même qui lui, je prends ses mots, hein, mais qui lui cassait l'arrière-train.
Et de manière générale, les Sixers n'avaient pas éliminé Boston depuis 1982.
Ah, la vache.
Mon année de naissance. Hein. Donc, merci pour le la vache, mais ouais, voilà, voilà ce que ça, voilà. Voilà pour les Sixers.
Autant pour moi.
Mais c'est ça.
Oui.
Vous faites calcul vous-même. Hein.
Bon, on n'a pas besoin de faire beaucoup plus long, surtout qu'on va reparler de cette série. Mais bravo encore.
Ouais, mais tu vois, quelqu'un disait, ça passait sur une remarque quand même, qui était bien. Imagine si ce mec n'avait pas eu de problème, que c'était pas le process, son pied, tout ça. Mais en fait, c'est aussi l'équilibre, un peu presque le karma ou je sais pas quoi. C'est ça qui fait toute la fascination, je trouve, autour d'Embiid. Il est constamment. Je sais pas si c'est la vie ou lui, mais il a constamment des bâtons dans les roues. Ouais, et encore l'appendicite, tu vois, c'est
vraiment
fou,
pas de chance quand même.
C'est fou. Ouais. Et en fait, il y a cette espèce de truc résilient. Moi, il me fait penser à une sorte de destination finale. Tu sais, il va toujours vouloir revenir et jusqu'au bout accomplir le truc de non, mais je vais quand même jouer, je vais quand même aider Sixers jusqu'au bout.
Je vais vous rappeler.
Je vais quand même me faire éliminer avant les finales de conférence, sans doute. Mais je vais être là. Et en fait, les playoffs, il y a quand même il y a toujours ce moment. Où tout tourne autour d'Embiid d'un moment ou un autre dans les playoffs, c'est fou et puis on le voit aussi
souvent au début des
playoffs. Pardon, mais les réseaux servent à ça. Il est hyper polarisant, bien sûr, mais je veux dire, par contre, il fait parler comme très peu de joueurs. Mm-hmm. Il a un côté C'est pas personnage principal, bon, mais tu sais, dans la galerie de personnages et tout, c'est un peu, c'est quand même l'un tout de suite qui attire, quoi, qui aimante, voilà.
Bah, on va en revenir juste après, mais
Oui.
en effet, après l'élimination, bah, oui.
Oui, si.
Oui, non, mais c'est ça, on va parler du trophée, mais Jaylen Brown, on l'a vu, hein, 62% des gens qui annonçaient les Celtics champions à l'Est dans notre communauté, donc il n'y a pas que nous qui nous trompons, même si moi
Ouais,
j'avais mis les
et
Celtics
puis
aussi,
alors
hein, je
le
me défausse
Celtic
pas.
Sixers, je sais pas combien de personnes ont les Sixers gagnants, mais ça doit être encore moins que ça.
Mais Jaylen Brown qui était après l'élimination, qui parle directement du All-NBA, du flopping, là les fans des Knicks alors que ça a gagné de 40 points, ça en parle déjà. Donc non, tu disais polarisant, c'est exceptionnel. Et oui, je propose qu'on enchaîne directement sur le trophée de la semaine parce que ce sera lié à ça. On va
C'est quoi notre trophée alors? C'est l'équipe la
l'équipe la
plus
plus décevante.
décevante.
Il y avait un podium, hein.
Il y avait un podium qui... Alors quand on s'est mis d'accord avec Robin pour ça, c'est-à-dire qu'on allait décerner non seulement l'équipe la plus décevante, mais aussi laquelle, on a eu tous les deux les trois mêmes équipes qui ont un peu... qui sont sorties du
Qui se
chapeau en
sont
même
battus, ouais.
temps. On peut commencer ensemble. Avec a priori pour tous les deux les Nuggets, mais plutôt les Nuggets en troisième.
Ouais, c'est ça. On attendait beaucoup mieux. Plein de gens les voyaient en finale, etc. Mais ils ont eu le mérite ou la malchance
Oui,
de
la
jouer les
malchance.
Wolves,
Ouais.
quoi,
Ouais.
qui sont une énorme équipe et qui sont un peu leur bête noire depuis des années niveau tactique. Très décevant. On en a parlé. On a fait deux vidéos sur cette série. Donc vous pourrez voir nos avis. Mais un peu moins que les deux autres à notre sens.
Et les deux autres, je pense que vous avez les mêmes, enfin j'espère. On hésitait entre les Houston Rockets et les Boston Celtics.
C'est ça.
Et on s'est dit que le grand gagnant, je révèle Robin ou on discute un peu avant? Non, peut-être un
Ouais,
peu. Viens, Robin.
bah non, mais ce que
L'émission va durer 6 heures, viens, on fait durer un
je...
peu le
vrai.
truc à petit feu.
Non, non, mais en fait, c'est pour dévoiler notre choix. Si on avait pris sur la saison en entier, ça aurait pas été cette équipe qu'on aurait choisie. Mais là, on parle de désillusion de playoff
Ouais,
spécifiquement parce que
ouais.
l'émission est une émission de playoff. Et du coup, on a choisi les Boston
Ouais,
Celtics
quand même.
quand même.
Donc, bravo, pas bravo, Boston.
Ouais.
Par où commencer?
Bah parce qu'on
Peut-être.
a dit, 62% des gens les voyaient
Oui.
en finale NBA. On peut que partir de là pour dire que c'est une énorme déception.
Oui.
Encore plus quand tu mènes 3-1 contre une
Et pour
équipe qui est
certains,
censée
et
être
je
plus
peux
forte que
l'entendre
toi.
en fait avec le recul, ça peut être un choc, et pourquoi pas. Je trouve quand même qu'il y a des circonstances atténuantes. C'est-à-dire que tu prends les Sixers, si Embiid ne revient pas, il passe. Et si Tatum dispute le match 7, je dis pas qu'il passe, mais je dis peut-être que
Y
les
a un
Sixers
débat,
passent pas,
bien
j'en
sûr.
sais rien. Enfin, parce que la fin de match, dans le clutch, je pense que Tatum, par sa présence, sa faculté à en mettre un ou deux des gros shoots là. Là
Bien sûr.
où je pense à Pritchard qui arrête un truc dans le coin. Je pense à... C'est pas pour dire que Tatum aurait mis celui-là forcément, mais les autres shoots auraient peut-être, les autres joueurs, pardon, auraient été encore plus ouverts. Et surtout, moi, le truc, Mazzulla, c'est un peu perdu. Je trouve que le choke, s'il faut désigner quelqu'un, c'est plus Mazzulla. C'est-à-dire qu'il y a un choix de 5 de départ en l'absence de Tatum.
Ron Harper Junior, enfin,
Garza et
Garza,
Shai et donc
Sherman.
Jalen Brown et Derrick White, je crois.
Ouais.
C'est ça, non?
Ouais, je crois que c'est ça,
Ouais. J'ai un vieux doute maintenant, mais
ouais.
je
Il me
crois que c'est
semble que c'est ça.
ça. En plus, pour pas exposer tes pivots, parce qu'en gros, Keita, dès qu'il contacte, enfin, dès qu'il y a Embiid, bah, il y a faute, il fait faute.
Ou
Ou
c'est mixte et
Joel provoque
compliqué.
la
Hein.
faute, enfin comme vous voulez. Il y a Vucevic, ça peut pas jouer.
Je trouvais que Nico, il avait un rôle important dans cette série justement pour écarter Embiid et peut-être faire de l'espace pour ses autres et il est passé à côté, il faut
La
le
balance est
dire.
pas bonne pour Nico parce qu'en fait Embiid le domine trop d'un côté pour que lui. Ça faudrait qu'il tourne à 9 sur 12 à 3 points en écartant Embiid pour
Ouais,
comprendre. Non
non,
mais
ça a été
vraiment,
dur.
hein,
Ouais, ça a été
si
dur.
tu fais les maths, ça doit être pas loin d'un truc comme ça. Boston donc, enfin Mazzulla comme je le disais, qui ce 5 un peu chelou, bah, qui plombe, je crois que c'est 11-2 et puis 17-6, je sais plus les chiffres exacts, mais dès le début du match pour les Sixers.
Ouais, je les ai plus,
Ça va
mais
pas
c'est
du
ça.
tout. Et puis en fin de match, enfin au fur et à mesure du match, il y a ce choix de mettre Brown sur Embiid, j'en reviens là. Là où je pense que s'il y a Tatum, il n'y a pas ça. C'est-à-dire que c'est Tatum éventuellement sur la taille. Je sais pas, ça se passe différemment, mais l'absence de Tatum, et moi je trouve encore plus défensivement, pèse dans ce match. Bref, ça c'était mon argumentaire pour dire que c'est pas tout à fait un choke parce qu'il y a trop de circonstances. Par contre, je veux pas jouer sur les mots, ils perdent un 3-1 à lead, même si la série commence sans Embiid et commence avec Tatum et qu'elle se finit sans Tatum. Le point est fait. C'est une énorme déception. Sur le moment, si on parle par exemple de début avril, là où les Celtics, tout l'alignement des planètes était total. Tu fais une saison incroyable. Moi, je parlais d'une saison qui vaut un titre, j'ai évidemment exagéré, mais dans le sens de la validation. C'est-à-dire que je me suis... Ce que je veux dire,
De
c'est
ton
que
système,
le
ouais.
titre, voilà, normalement, on dit le seul truc qui va être ton système, les Suns de D'Antoni l'ont bien su, alors dépend au machin, c'est un titre. Je trouve que quand tu fais une saison sans ton franchise player et sans tes autres meilleurs joueurs que tu te vires, comme Jrue Holiday, comme Porzingis, et que tu fais la saison que tu fais là, comme a fait Boston, c'est une validation aussi forte, c'est un tampon aussi fort presque qu'un titre, parce que tu finis deuxième de l'Est, et parce qu'au début des playoffs, justement, t'as tellement surperformé que les gens font de toi le favori.
C'est ça, en fait, là, c'est une énorme désillusion, mais avec le recul, on sait que enfin, cette saison des Celtics, elle est extrêmement proche de la saison 95 des Bulls, où tu as Scottie Pippen qui s'affirme, comme Jaylen Brown l'a fait pendant la saison régulière.
Bien vu.
Playoff,
bien
c'est
vu.
Plus compliqué. Et bon, bah, ça se passe pas très bien pour les Bulls en playoff à ce moment-là.
Deuxième non tour plus. Contre les Knicks.
Ouais. Donc c'est un peu mieux, mais tu vois, avec le recul, on a tous une très bonne image de cette saison des Bulls, de cette saison de Scottie Pippen. Elle revient à chaque fois qu'on parle de sa carrière.
Il fait une saison incroyable. Il fait une saison des...
Là, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit que c'est pas sur la saison. T'as validé, même si là il s'est perdu. Mazzulla est un coach de fou. T'as validé que tes franchise play, tes role players sont justement des monstres dans leur rôle respectif.
Peyton Pritchard, il passe de sixième homme à titulaire. En fait, tout le monde. Tu crées des joueurs, Les Masqueta devient un titulaire NBA, tu crées. Etc.
Mais ils ont créé de l'attente, et de l'attente naît la déception. Et du coup, ils repartent à la maison avec ce
trophée. Et puis, bah, tout s'allie, mais ils ont pris un beat dans la gueule aussi. En fait, ils n'ont personne au pivot.
Ouais.
Et eux aussi, on parlait un peu des Spurs. Ils n'ont pas de vrai poste 4. En fait, ils ont des pivots, et après, ils ont Tatum. Ils vont mettre du Jordan Walsh, qui est le plus proche d'un poste 4, peut-être Baylor, peut-être.
Ouais.
Mais tu vois, c'est pas des postes 4, voilà. Mm-hmm. Donc en fait, tout de suite, au jeu des possessions, ben, sur les rebonds, sur les trucs, il y a des trucs où tu as des vraies failles. Et puis, j'avoue, pour une franchise dont on vante, moi le premier, hein, l'intelligence, enfin je trouve ça un modèle d'intelligence de trucs et tout.
Plan B.
Eh oui, les trois points là. Alors je comprends que ça fasse débat. On va pas. Moi, je suis désolé. Ils mettent 2-3 points de plus et on n'a pas ce débat parce que, ben, en fait, c'est une make or miss league. Et la méthode a quand même prouvé déjà a déjà porté ses fruits. Maintenant, au fur et à mesure de la saison, on avait vu plus d'alternance. Et c'est vrai que c'est le manque d'alternance. Moi, je jette pas le bébé l'eau avec bain. La méthode est la bonne, mais la méthode marche parce que parfois, tu sais un tout petit peu t'en détacher pour alterner des choses comme ça et tout pour mieux la renforcer. Et là, il y a eu une espèce de côté arc-bouté.
Dans les trois derniers matchs, c'est catastrophique, hein, l'adresse, simplement.
Ouais, mais le problème, c'est à quel moment tu dévies.
Non,
parce qu'en fait, si le 3 points d'après, il rentre. Tu vois,
ouais.
Et surtout là où moi ça me gêne, c'est je veux bien entendre vos avis tactiques. Et c'est quoi le plan B des Celtics? C'est là où je suis pas d'accord. T'as pas, surtout le dernier match, match 7, t'as pas. C'est quoi le plan B? Poster, envoyer Derrick White au poste? Faire des Spain
avis,
pick
ouais.
and roll avec Keita? Enfin, j'en sais rien, mais je.
Un Jalen Brown plus agressif vers l'arceau, certainement.
Ouais,
aurait pu aider.
Ouais,
d'ailleurs,
ouais.
Jalen Brown s'est beaucoup critiqué par la communauté des Celtics depuis l'élimination. Bon, il faut dire que c'est des déclarations, il ne cède pas lui-même.
Ouais, Jalen Brown, je te disais en rigolant off, je peux le dire là, mais ouais. Hey, il voudrait lui-même placer son nom dans les rumeurs de transfert ou faire en sorte qu'il ne s'y prendrait pas autrement. Je ne dis pas que c'est
clair.
Ça, mais c'est chelou. Le côté, c'est la saison que j'ai plus kiffé de ma vie, alors que tu as été finale MVP. En sortir d'un match 7 qui déçoit toute la. C'est.
Le lendemain,
c'est...
presque. Hein.
C'est fort de café, comme on disait quand on était vieux.
C'était ambitieux.
Enfin, quand j'étais petit et que c'est l'expression de vieux, quoi, vous m'avez compris.
Bah, on l'adore encore. Hein.
Ah, tu connais, toi, fort de café?
Ouais.
Alors, tu bois pas de café, tu connais fort de café?
Écoute, j'ai une grande famille qui m'a éduqué cette énorme expression.
Ok.
On a déjà fait assez complet sur Boston. Moi, je fais très rapidement, à part c'était un.
Si, vas-y, parce que ça va me permettre de chercher un petit tweet sur Boston. Je veux bien rajouter un
peu. Non, sur Houston, moi, du coup, je peux me les payer un petit peu. C'est vrai qu'il y a la blessure de KD qui change beaucoup de choses, mais même sans KD, t'es censé battre cette équipe des Lakers qui n'a que les bras, même si Austin Reeves revient en cours de série. Alperen Sengun, c'est un peu à l'image de sa saison. C'est pas horrible du tout, mais c'est un peu décevant, surtout après l'Eurobasket où moi j'avais eu un énorme coup de cœur sur ce qu'il était capable de faire.
C'est vrai que ta déception côté Houston, c'est Alperen Sengun.
Ouais, bah après, t'as des erreurs de jeunesse, on le sait. Le tournant de la série, surtout vu la fin, le scénario de fin, c'est quand même cette fin de match 3 où tu mènes de 6 points à 40 secondes de la fin, où t'as des erreurs de jeunesse. Donc ça, c'était quand même un énorme choc. Dans la foulée, la conférence de presse d'Ime Udoka, moi je trouve toujours qu'elle était un peu moche à charger ses jeunes comme ça, donc même Ime Udoka, il est encore perdu.
Pas mal, t'es pas le seul, hein. Pas mal de monde a eu du mal avec
en sympathie. Alors. Et alors, le game 6, il est passé complètement sous la table parce que c'était le même sort que l'énorme d'Orlando et le
c'est pour ça qu'on a hésité à les mettre premier. Ouais.
Et le shoot de RJ Barrett, donc ça, c'était une nuit de fou. Du coup, vraiment, personne s'en est soucié, mais ils font un match, c'est à domicile, hein. Ils perdent de 20 points. J'ai regardé sur les joueurs qui ont pris deux tirs au plus. Il n'y en a qu'un qui a 50% shoot et c'est Amen Thompson à 7 sur 14. Genre, tous les autres passent au travers, t'as tout le monde qui se cague dessus et au final tu as une série qui est dans l'ensemble catastrophique. En plus, et c'est tant mieux en vrai, tu parlais beaucoup pour dire on va revenir à Houston, on va aller chercher le match 7 et tout. Ça a porté ses fruits un petit moment, ils ont assumé le temps de deux matchs leur parole. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire, mais je dis que dans l'ensemble, la série c'est quand même une brave catastrophe de Houston.
Complètement. La saison. Tout début avec le transfert de KD, on dit peut-être ça joue le titre. Il y a la blessure de Van Vliet, il y a la blessure d'Adams ensuite. On dit ok, peut-être ça va quand même un peu faire un truc sur la défense. Et je trouve, moi, Tu parlais du match 6 notamment, j'ai des souvenirs vraiment de séquences un peu. On a mis Boston, hein. Mais alors Boston, en termes de qualité de basket, même si la fanbase critique et a raison, les ajustements qui sont venus trop tard, là je reprends le tweet d'Azad par exemple, c'était de faire jouer plus Hugo Gonzalez, c'était d'user Keta en roamer, de jouer beaucoup plus des pick and roll, des choses qu'a mis en place Mazzulla, mais trop tard en fait. Et du coup, il a un peu subi la série. Bref, Houston, mais il n'y a même pas de début d'ajustement. C'était le néant en termes de coaching, de qualité de jeu. Offensivement sans KD, mais enfin, c'est même pas une équipe de playoff en fait.
Non, non, clairement, c'était très très moche.
Et franchement, on a un peu pas mis Houston pour montrer qu'on on vous écoute, on met Boston, et je suis complètement d'accord sur le terme déception. Boston était une équipe que beaucoup,
qui était encore
beaucoup
plus
voyaient en fait avoir créé, s'être créé une situation tellement favorable par avec une saison exceptionnelle. Qu'il n'y avait plus que deux issues, c'était soit les astres continuent à s'aligner, le vent dans le dos, et moi c'était le scénar que j'avais cru apercevoir, plein de gens aussi et tout, boum, final. Soit en fait c'était, Embiid va revenir, et votre effectif, les gens qui disaient c'est une équipe borderline, avantage du terrain, enfin borderline playoff en fait, parce que, notamment une des faiblesses, c'était raquette de merde, c'était manque de solution dès qu'il n'y a pas Tatum et tout, tout ça s'est avéré très vrai pendant le match 7. Mais tu vois, c'est paradoxal parce qu'ils ont failli gagner quand même.
Ouais, non, voilà. Plus grosse déception, Boston.
Plus grosse déception, collective, équipe et tout. Ouais, dis-moi.
Non, j'allais dire, c'est le retour du Week Pass. Et parmi le Week Pass, une chose essentielle, c'est aussi les divagations. Oui. C'était sur ce trophée, la petite question que je voulais te poser.
D'accord.
Est-ce que tu as une déception cinéma, notamment, peut-être, dont tu voudrais parler dans
la Donc ce serait pas l'équipe la plus décevante, mais moi je pense je pourrais traduire ça en la suite la plus décevante.
Ouais, potentiellement.
Alors,
ça peut être un premier film.
Je vais encore faire une rêve du siècle dernier, quoique.
Régale-nous.
La suite, c'est. Non, Matrix 2 et 3.
Okay.
C'est-à-dire que Matrix 2 et 3, c'est tellement de la bouillie post-transcendantalo, complotisto. Le premier est assez culte, et les films suivants, en fait, essayent d'expliquer des choses et de. Tu les as vus ?
Non.
D'accord.
Non.
Ni le premier, ni le 2, ni le 3.
Non, pour être très honnête.
Je m'adresse à la caméra alors.
Oui, ouais,
et donc vous avez. Alors je sais plus comment il s'appelle. Matrix Reloaded, Matrix Révolution, Super Matrix Fighter 2, tout ce que vous voulez. Mais tu vois, en fait, Robin, t'as une espèce de logoré qui peut être intéressante en soi, mais qui est pas cinématographique pour dessous, qui met une rupture, je trouve, par rapport au premier. Et pourquoi c'est ma suite la plus décevante ? Donc t'as ces films 2, puis après le 3, mais déjà dès le 2, c'est en place, c'est fait. Le mal est fait. Il y avait une part de mystère dans le premier, voire même d'incompréhension. Le 2 essaie de tout expliquer avec des discours, on dirait un peu Stephen Hawking pour les nuls, tu vois.
Okay.
Avec les mondes parallèles, les trucs, l'oracle et tout. Et en fait, tu comprends rien, c'est baveux. C'est... Et comment dire, comme il y a ça dans le 2, quand tu revois le premier, tu te rends compte qu'il y avait un peu ça déjà dans le premier. Donc en fait, c'est une suite vicieuse parce qu'elle te nique ton amour du premier. Elle va chercher à te dire, moi le premier, pour moi tout se tient, il y a juste pilule rouge, pilule bleue, tu vois, il est d'une efficacité, et puis dans la logique de c'est quoi la matrice, les quelques explications, ça passe, parce que t'es subjugué par les effets spéciaux, tu connais tous les agents, tu connais Keanu Reeves qui évite les balles, la musique, enfin voilà, donc tout ça prend le dessus, et donc t'as le choc du premier, ok, quelques années après le 2 sort, tu es là en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de néo-psycho, je sais pas quoi, là, je sais pas quel mot mettre dessus, de bavard autour des, on dirait une mauvaise conférence TEDx sur les mondes parallèles et la matrice, tu vois. Et en fait, quand tu regardes le premier, tu te fais, ah merde, j'avais pas vu, mais en fait, il y a un peu de ça dans le premier.
Ok.
Ça fait penser en amour aux petits défauts que tu vois pas au début parce que t'es hyper amoureux. Et en fait, quand tu vois plus que ça que t'as sous le nez, tu te rends compte que c'était déjà là. C'est hyper dur,
je vois
ça.
Parfaitement, parce que
voilà.
Parce que de quoi tu veux parler. Ok, c'est une très belle explication, en effet. Okay.
Toi, t'avais quoi
Dans le cinéma. Comme ça, je suis plus série, mais on va respecter. On va respecter les films. En plus, j'ai une petite idée qui m'a été un petit peu qui a germé grâce à Léonce. Si je veux pas dire que tous les mots qui viennent sont aussi les siens, hein, mais c'est surtout surtout les miens. On l'a dit il y a quelques semaines qu'on a fait nos tables de rêve. J'avais mis Alexandre Astier à ma table.
Ouais.
J'ai beaucoup d'admiration pour lui et
pour
son travail en général. Mais faut dire que là, les films Kaamelott depuis pour quelqu'un qui adore la série. J'ai un peu de mal quoi. Le premier, je trouve que tu perds complètement ce qui fait l'énorme force notamment de Kaamelott, les dialogues, je les trouve moins.
C'est
ciblés,
pas mal vu au format quand même, je trouve.
Ouais,
passage au long métrage, il y a un truc qui se brise.
Ouais, non, c'est compliqué. Et puis alors dans le deuxième, sans rien spoiler, je trouve que tu retrouves le côté dialogue, mais
Tu peux spoiler ça à 45 ans.
Non, mais c'est une partie.
C'était au Moyen Âge, c'était il y a 1000 ans, c'est bon.
Non,
les gens.
Là, le deuxième, c'est une partie 1. Enfin, tu sais, il y a la deuxième partie 1, et du coup, en fait, il avance pas. C'est un peu.
Un peu comme nous avec ce Big Pass.
Oui, c'est clair. Non, mais il avance pas très bien, et en plus, t'as même Franck Pithiaud, enfin, celui qui joue Perceval, qui est le personnage préféré des femmes, qui revient pas. Donc, le premier, il est un peu raté, je trouve, au niveau des dialogues. Le deuxième, l'histoire n'avance plus. Pour quelqu'un qui adorait la série, c'est un peu compliqué.
Matrix, la série, du coup. C'est-à-dire qu'à ce moment du film, t'as moins de plaisir à mater la série.
Je l'ai pas regardé depuis, mais je pense pas, c'est tellement pas le même format.
Et je te dis ça parce que moi, je suis pas hyper Kaamelott. J'ai rien contre, mais c'est pas mon.
Non, je peux comprendre. Non. C'est particulier comme.
Ok. On avait essayé aussi, parce que de toute façon, perdu pour perdu au niveau du timer et du conducteur.
Bon, on va le faire rapidement quand même.
Voilà. Non, mais tu m'avais dit aussi, tu sais, on a ce fil rouge qui est la bouffe, qu'est-ce qu'on mange pas, tout ça, machin. Ouais. J'ai encore mangé un super banh mi à midi. Et tu m'as dit en déception alimentaire. Et la manière dont tu avais formulé la question, c'est qu'est-ce que tu trouves beau visuellement, mais qui est pas bon.
Ouais.
Mais moi, en fait, je suis un être simple. Si c'est beau, c'est bon.
Ah ouais.
Moi, mes yeux et mon estomac ne sont qu'un seul et même organe, je crois. Ils sont reliés directement. Il y a des synapses qui les relient parce que il y a rien. En fait, et à l'inverse, si je vois un truc et que je suis là, genre, ça m'a pas l'air bon, bah en fait, si je le mange, ma bouche va dire, bah c'est pas bon.
Ah ouais, je suis pas forcément d'accord.
Ouais, j'ai pas de dichotomie ou de non, comment on appelle ça, de box disjoint entre mes yeux et mon voilà. Donc j'ai pas de bonne réponse.
J'ai pas de réponse. Un exemple. Est-ce qu'il y a quelque chose sur le papier, hein?
Ouais.
De plus appétissant qu'une fontaine de chocolat et qui est franchement en bouche.
Ah non, moi mes yeux ils vont me dire tout de suite gastro, enfin indigestion.
Ah oui, d'accord.
Ah ouais, ouais.
Non, mais je trouve ça très beau, je trouve ça très attirant et au final c'est en bouche, ça donne pas grand chose quoi. Enfin, je veux dire, le
on
mélange.
Tu sais quoi, je vous le promets, on fait une spéciale chocolat de 2 heures. Il y a tellement de choses à dire sur le chocolat.
Tu
manges du chocolat
blanc?
Je
un peu, oui, moi j'aime bien, ouais.
On va commencer comme ça.
Mais après, j'aime tous les chocolats hein, globalement. Mais,
tous les chocolats.
Le mélange fruits-chocolat, je peux déjà donner cette piste.
Ouais,
je trouve que ça marche un peu avec la poire, ça marche un peu avec la banane, mais déjà les fruits rouges, je suis pas dans l'équipe.
Okay.
Les orangettes.
C'est vrai que ça a
horrible.
L'air bon, ouais, ok.
Tu vois, donc
je pense jamais au sucré. Non, par contre, j'ai fait penser à un autre truc vite fait. Mais à l'inverse, il y a des trucs que j'ai vraiment longtemps. À cause de l'aspect, j'ai dit jamais je mange ça, les gars.
Tu vois, les fromages, le bleu, etc., c'est moche et c'est trop bon. Enfin, bon
non, c'est joli et c'est pas. Non, moi je parle escargot et huître.
Ouais, non, c'est vraiment pas.
Mais alors, les escargots, je me suis fait avoir parce qu'en fait, la sauce, c'est divin. Et au bout d'un moment, on te dit prends un escargot avec, t'es petit, mon grand-père, il en faisait, frère, c'est vraiment super bon. En Moselle, en plus, c'est un peu un plat du coin, Bourgogne. Donc, les escargots, vers 7-8 ans, je me suis fait convaincre. Les huîtres, j'ai mis énormément de temps.
Ah bah, moi j'attends encore, hein, je te le dis.
Moi j'étais là en mode non, mais voilà. En plus, j'ai vu des gens malades, mais malades, enfin, ça a l'air terrible quand t'es malade avec les huîtres. Et un jour, j'ai goûté, je sais pas, j'ai 20 ans et tout. Et en fait, je comprends. Le délire iodé là, il y a quelque chose quand même. Il se passe quelque chose que tu peux équilibrer un peu. Ouais. Les huîtres, non, je comprends. Par contre, c'est là où je reviens, je reboucle le truc et on va pouvoir changer de sujet enfin. Mes yeux me disent quand même attention, ce truc là est pas le plus facile à digérer, c'est pas comestible, ça reste quand même un truc. Le premier mec qui a mangé ça d'ailleurs, j'aimerais bien savoir ce qu'il lui est passé.
J'allais dire cette phrase
sur la vanne.
Bah, ouais, mais franchement.
Mais ça marche avec tout. Le premier mec qui a
le lait de oui.
Voilà.
le lait
de vache, qu'est-ce qui s'est passé? Bertrand, qu'est-ce que tu as fait ce jour-là? Mais du coup les huîtres, moi j'en mange genre 3.
Ah ouais.
Et je sais m'arrêter parce que je sens que si j'en mange plus, ouais, puis je suis un petit estomac fragile moi.
Ah ouais, non mais ok, on a fait le tour des.
Et le côté chelou prend le dessus, c'est-à-dire que c'est quand même très moche une huître.
Ah oui, ça. Il y a pas trop de débat.
Voilà.
En effet, on va peut-être.
Finalement, on va pas faire le bilan des playoffs, on s'en fout. Ouais.
Non, mais on va enchaîner quand même. Allez, le gros débat. En effet, bilan du premier tour.
Ouais. On perd pas de temps.
Ouais, on va essayer d'être assez efficace.
Ardoise.
Alors, le but, ça va être de revenir sur un joueur qui nous a marqué, une équipe, un match et une wild card. On va essayer d'être assez efficace sur le tout, mais je te propose d'écrire sur l'Ardoise directement.
J'ai perdu dans mes notes avec les huîtres.
De ton joueur
cette
directement.
Cette phrase n'est pas une contre-pétrie, mais mon joueur. Ouais.
Ouais, on peut commencer là-dessus.
Coup de cœur, quoi.
Ouais, celui qui t'a vraiment marqué sur ces 10 premiers jours de play-off.
Alors, je sais plus s'il y a un L ou deux L. Je sais qu'il y a deux R. Je sais qu'il y a un trait d'union. Et je sais.
Je commence à voir où tu vas.
Je vais dans le Canada. Oh là là.
Et moi, Jaden McDaniels.
Ouais, bah ouais, Jaden McDaniels. Tiens, pouf, on peut noter à l'image. Tiens, il est là, comment?
Allez. Bah, déjà, je trouve ça assez hallucinant parce qu'on en parle assez peu. Quand même à chaque fois au cours de la saison, et en fait ça fait 2 ans qu'il est dans une équipe qui fait finale de conf, et maintenant ils sont en tout cas dans le match pour y retourner, et à chaque fois en étant en top 3 meilleurs joueurs de son équipe. Défensivement, tout le monde sait que c'est un monstre, il a quand même éteint Jamal Murray de manière assez impressionnante, mais en attaque il a aussi réussi à prendre le relais d'Anthony Edwards un petit peu quand il s'est blessé.
Mais il a mis Fox dans la popoche aussi un peu sur
ça. Et puis les deux énormes matchs offensifs qu'il fait, match 4 et match 6, c'est deux tournants de la série, et c'est clairement lui le patron sur le terrain. Et au-delà de ça, parce que du coup, j'essaie de faire efficace. En plus, On a parlé beaucoup de la nervosité des Nuggets. C'est lui qui est à l'origine de ce truc-là.
Le trash talk est démentiel. Ouais.
Ouais, c'est ça. On a rarement vu un mec autant assumer ses propos. Bon, on le sait, hein, les défenseurs des Nuggets sont mauvais. Ça a fait du mal au vestiaire derrière le layup qui énerve Nikola Jokic.
C'est vrai.
Il est entré dans leur tête, tout simplement, de A à Z. Il a été très bon offensivement. Défensivement, c'est un monstre. Et pour conclure, ouais, j'ai vu un mec sur Twitter qui disait qu'il aimerait bien voir un Jaden McDaniels avec Team USA,
C'est
potentiellement
hyper,
dans les Jeux Olympiques,
c'est
etc.
tellement ça.
C'est typiquement le genre de mec qui peut leur faire trop du bien à la Derrick White au JO de Paris, à la Jrue Holiday depuis quelques
Ah ouais, non
compétitions.
mais.
Sur les ailes, c'est pas celui qui va demander le plus de ballons, mais il te fait une différence. Pour moi,
Non
c'est un des
mais
meilleurs joueurs.
il est rentré dans leur tête, il allait arracher leur cœur, il a mis le bord, tu vois, il a.
Je sais pas si c'est un top 20, top 25 joueur de NBA, mais moi
Je sais
je le
pas,
mettrais
c'est dur
là-dedans,
à
tu vois,
dire
je
parce que
pense.
c'est un profil, mais par contre,
Il
en
est
termes
hallucinant.
d'utile, de tout ce qu'il permet, de comment il t'assure un plancher, on dit parfois qu'il y a des joueurs qui te font gagner. Anthony Edwards est par exemple le joueur qui fait gagner les Wolves, et on dit qu'il y a des joueurs qui t'empêchent de perdre. Jaden McDaniels est le joueur qui empêche les Wolves de perdre.
Exactement.
Je me la pète un peu, c'est une théorie qu'on avait avec Rafael Benitez, où à l'époque il était hyper d'accord quand je disais qu'en gros, JR c'est le mec qui te fait gagner, mais par contre c'est Xabi Alonso qui t'empêche de perdre.
Ok, oui,
Parce que
on
c'est un
était
truc
sur
que
ce
moi
truc.
petit j'avais
J'avais J.R.
entendu, ce
Smith,
truc
moi, en
de
tête.
voilà.
Genre, ouais.
Mais c'est hyper, c'est une manière assez cool de décrire les joueurs. Jaden McDaniels t'empêche de perdre. Ou si tu veux, il fait dérailler l'adversaire, c'est un peu pareil. Dernière petite remarque, je vais enchaîner sur Colin Murray-Ball. C'est qui le MIP déjà cette année pour toi? Enfin, pas pour toi, c'est qui était le MIP? Tu sais que j'ai un doute.
Nickel Alexander Walker.
Le vrai MIP, en fait, je me disais, bon, allez, mais c'est facile, c'est peut-être Jaden McDaniels. Parce
Ça
qu'en
fait des
fait,
saisons qu'il est bon quand même. Hein.
oui, mais là, il a changé de dimension.
C'est possible,
Il y a un
ouais.
côté. Moi, je trouve qu'il est passé d'un Batman et je te dis pas ça, hein, voilà, d'Anthony Edwards, à quelque chose de. C'est plus que le bras droit d'Anthony Edwards. Et pour preuve, tout le monde ressort le même. À l'époque, c'était contre les Suns. Ils ont KD, on a Jaden McDaniels. Bah, tu sais qu'aujourd'hui, mais je prends Jaden. Alors que j'adore KD, bah, je prends Jaden McDaniels, mec.
La phrase elle est dure quand même.
Mais là,
Ouais,
en 2026, en série de playoffs, bah, demande à tout le monde. Enfin, tu vois
non
ce que je veux
mais
dire? Non, mais je prends Jaden McDaniels.
c'est
Non,
pas le même
bon,
jeu, c'est pas
je comprends
totalement
la
pas la même
phrase.
chose,
Je
oui.
comprends la phrase
Tu peux
d'Edwards.
entendre cette phrase en
Mais
disant
tu peux
ouais.
plus que l'entendre.
Oui, non
Voilà.
mais il est exceptionnel ça, c'est parti. Tu prêches un convaincu.
Trois lettres, Corinne Mulley Boyles.
CMB.
Trois mots pour aller vite et tout. Bah, en fait, le mec a 20 ans. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le mec a 20 ans, il est rentré là-dedans, papa de gauche, sorte de Draymond Green moderne, couplé avec, je sais pas, joueur hyper chelou, mais en même temps trop petit pour jouer pivot, mais beaucoup trop fort pour pas jouer pivot, en fait, ou 4 ou démolisseur. On était là surtout avant tout sur le profil défensif, mais en fait en attaque il a montré de l'intelligence de jeu, de la polyvalence, de la lecture de jeu. Alors il a fait des erreurs, hein, je vous dis pas quoi, mais c'est pas pour rien que Darko, là je pense c'est pas juste, c'est de la com des fois de dire ouais, notre rookie. Là je pense que quand Scottie Barnes, quand Darko, ils ont dit mais en fait le rookie là, trop bien.
Hallucinant la série des deux, franchement. Ce que dit Barnes, là, enfin oui, t'as trouvé. Ok, t'as perdu cette série, mais t'as vraiment trouvé des vraies convictions fortes pour l'avenir, quoi.
Il faut trouver une manière de maximiser le temps de jeu les deux en même temps, de peut-être même repenser l'équipe parce que je sais pas comment. Parce que c'est deux joueurs qui ils sont complémentaires mais c'est un peu chelou. Et si t'as perdu 4-5, t'es vraiment petit. Donc en fait, je pense qu'il y en a un des deux qui est en intérieur et l'autre qui joue point forward, Scotty Barnes. Je pense qu'il faut virer une grab, mettre des shooters autour et un 5 qui stretch. Donc en fait, faut tout refaire presque à Toronto, mais autour des deux là. Mais par contre, si t'y arrives ou quelque chose, t'as
Il y a
un
quelque chose de
truc.
très intéressant.
Ah non, mais t'as un truc incroyable. Si t'arrives à faire fonctionner l'équipe autour de CMB et Scotty Barnes et que les deux expriment 100% de ce qu'ils montrent. Tu peux vraiment être terrifiant, je pense, pour tes adversaires.
Puis je me
Vraiment.
permets en off, tu me
Ouais.
partageais une anecdote avec Maxime Reynaud. Tu as une discussion
Ah
autour de
oui, on
Colin Murray-Ball.
parlait. Oui, Maxime pendant bah, le Grand Rex. On parlait à un moment, de manière générale, un peu décousu comme ça, des différents joueurs, notamment des intérieurs, et puis bah, notamment des rookies aussi, puisque lui est en rookie intérieur, de ce qui se passe en playoff et tout. Et c'est lui qui m'a dit tout de suite, il m'a dit, mais Murray Bowles, il m'a dit un truc très haut, je n'ai pas pensé. Il m'a dit, mais il est plus jeune que moi, c'est ce qui est marrant. Il m'a mis 20 ans, le
Ouais.
côté. Parce que Maxime doit avoir. Écoute, j'ai un doute. Maxime, il a
Il a
eu.
22, je crois.
Non, je crois qu'il a eu
22, 23.
23, là. Je crois qu'il
Il vient
vient
d'avoir 23.
d'avoir 23. Il est né en 2003, je sais pas. Donc, c'est
Ouais, donc
ça.
il
Il
vient
vient
d'avoir
d'avoir
23.
23 le 7 avril. Donc, on peut encore lui souhaiter un bon anniversaire. On est dans... Et c'est vrai que, du coup, bah, Murray Bowles, ça fait quand même 3 ans de moins, quoi.
Ouais. Et ouais,
Et
il
c'est
se
ça que tu
retrouve
te
dans
dis.
une série
Donc, en gros,
playoff,
c'est pas
c'est.
pour. Mais marge de progression encore. Sans doute là, sur 2-3 ans. Où le joueur n'est pas fini en fait, là où Maxime est quand même va ajouter des trucs, voilà, mais ça fait une différence quand même à ce stage-là. C'est pas du tout
Ouais,
pour dénigrer Maxime,
non mais et
mais
puis il se retrouve dans ce truc où il y a Poeltl, où il y a Evan Mobley qui finit bien la série sur les matchs 5-6, Tyra Taylan qui fait un gros match 7, mais peut-être que le plus régulier sur l'ensemble de la série à l'intérieur, c'est Colin Murray-Bowles, alors que c'est des gros noms à côté
et
de lui.
Et puis
quoi.
Moi, ce que je trouve flippant, c'est la force. Et l'autre, il a la force d'un papa, il a 20 ans, il met des patates gauche là, sur des adultes. Bah, il est adulte aussi, je veux pas dire qu'il a 20 ans, mais quand même quoi. Quand même.
Non, très très fort.
L'équipe. On enchaîne. L'équipe.
Moi, je l'ai déjà écrit. Wow. Et je vais pouvoir aller vite, c'est pas seulement parce qu'on veut accélérer, mais c'est parce qu'on a déjà bien parlé.
Ouh.
Bon, en plus. On y retourne.
Ouais.
Ouais, je vais rapidement sur Knicks parce qu'en fait, ce que je voulais dire, on l'a déjà dit plus tôt là quand on a parlé du match contre les Sixers.
Et
puis gentil. C'est quoi, ça fait 4 matchs de suite que je l'ai trop halluciné. Moi,
bah, il y a eu un déclic en fait.
On parlait de nos brackets. Énorme mea culpa. J'avais envie de tenter un risque au premier tour. Évidemment que les Knicks étaient favoris, mais j'avais mis les Hawks. Alors que là, mais j'ai complètement retourné ma veste
à 100%. Tu le tenais à 2-1, quoi.
Ouais. Et là, il reste 4 équipes à l'Est. Moi, je suis très déçu si c'est pas les Knicks en finale NBA. De ce que je vois de ces 4 derniers matchs, je les trouve trop forts.
Je
trouve le 5 majeur assez exceptionnel. Je trouve que les entrées de McBride, elles sont belles. Que Alvarado, il a trouvé
finale,
un rôle.
J'ai effacé Wolves, mais tu sais que Knicks-Wolves, moi, je signe des deux mains. C'est ça, la finale. Enfin, de toute façon, là, normalement, la finale sera super.
Ouais, non, clairement. Et est-ce que j'ai noté des trucs. Non, même en défense, je trouve que Kat, il fait des efforts. On parlait des fautes qu'il fait sur Embiid, mais au-delà des fautes, il y a aussi 2-3 fois où il a les mains très actives et où il arrive à lui piquer des ballons. Je le trouve mobile. Je trouve que depuis qu'ils ont trouvé cette alternance à l'intérieur, on en parlait, je crois, après les matchs 3, qu'il fallait plus trouver Kat et être
plus
dur. Ah
bah moi, j'étais le premier à dire moins de Brunson, plus de Towns, s'il vous plaît. Et Towns un peu pivot passeur. Enfin, en tout cas, plus sollicité en début d'attaque, il tourne à
triple double. Il a fait un triple double.
Bah en fait,
dans
il tourne à. C'est le 11e passeur des playoffs à égalité avec Paxi. Il est devant Brunson. Il est à 6 passes de moyenne quand Brunson est à 5-7.
Très bien.
Et là, les derniers matchs, les 4 derniers matchs, il fait 10-6-10-6. Il est aussi 3e à l'efficiency 4.
Non, mais on l'a beaucoup critiqué, mais moi je trouve que c'est son début de playoffs
là, il domine,
assez remarquable.
En fait.
Je pense que c'est la clé qui va les amener en finale NBA.
Attention à la série contre Joel.
C'est sûr.
Et
il faut se mouiller.
Ouais. Non, et là où je te rejoins, c'est une stat qui est hyper intéressante parce que je veux voir celle-là dans les genre les Américains sortent des stats improbables. Les Knicks sont la première. Est-ce que tu sais ce qu'ils ont fait pour la première fois en playoff qui a jamais été fait là à l'instant là vraiment.
Il me semble. Enfin, peut-être.
Il y a
un vrai truc,
je trouve.
Enfin, mais je pense que c'est pas ça, mais juste je tente aussi le net rating. Le plus minus pardon sur les 4 derniers matchs, c'est plus 135 et je crois que ça a rarement.
On n'est pas
été
loin.
Lui.
C'est les 3 dernières victoires ont été plus de 25 points.
Ouais.
C'est
ouais,
la première fois en fait tout simplement en enchaînant pas à cheval tout ce que vous voulez hein, tu prends même les Bulls 4-5 mais rien, ils ont gagné 2 fois les Hawks et donc le premier contre les Sixers. Alors OK, les Hawks ont craqué les Sixers calendrier, mais ça arrive à d'autres équipes de play-off, ça arrive à d'autres favoris et c'est les premiers à faire 3 victoires de suite de plus de 25 points, donc 3 branlés hein,
contre deux équipes différentes du coup en plus.
Et ça, je me dis, est-ce qu'on se retrouve à un moment l'Enix vers le Graal, tu vois, l'Enix vers la, voilà, je sais pas, mais il y a des petits signaux comme ça. Au fur et à mesure des playoffs qu'ils font, ça sent un peu bon pour les Knicks.
C'est sympa.
Ça, ils vont me détester parce que ça va être de ma faute évidemment s'ils font des conneries.
Oui, rendez-vous dans 2 semaines. Hein.
Ils jouent bien.
Je suis très convaincu.
Ils ont de la marge en plus. En fait, ça leur permet d'avoir de la marge défensivement, tellement là offensivement ils se créent. Ils ont un rythme de jeu. Si le basket offensif peut être comparé à de la musique, on parle souvent de rythme. Je trouve qu'on pourrait le faire d'ailleurs sur la défense, mais bref. Là, les Knicks, ils jouent c'est cool ce qu'ils jouent comme musique.
Ouais, et puis même Bridges et Hart, ils rataient leur shoot au début, maintenant ça rentre. Mais ouais, non, hallucinant. Et c'est vrai qu'on n'a pas prononcé ce nom encore, mais on le fera peut-être plus tard dans l'émission. Anunobi est exceptionnel. Je te laisse enchaîner sur les Wolves.
Bon, ils rendent chaque série où ils jouent, en fait, puis ça fait 3 ans qu'ils font le coup, c'est la plus divertissante. Les mecs, moi je trouve que c'est le côté, puis c'est le caractère, en fait. C'est le mental, c'est le côté next man up, c'est le côté. Ok, Edwards pas là, bah yo Dawson Mou pas là, Dante non plus, bon bah ok, Shannon Brown, ok, ça va pas encore, bah on ressort Mike Conley de Terminator 3, là, le frigo, tout ça et tout, il n'y a pas de problème. Jalen McDaniels, c'est un espèce de monstre ghost dog, là, de sang-froid et tout. Gobert qui est colossal. Et en fait, ce que je trouve aussi génial, c'est le côté groupe, c'est-à-dire qu'ils sont coachés et ils se laissent être coachés. Gobert, il sort, on l'a dit, 4e carton, machin, tactiquement, il n'y a pas de problème. Edwards, tu vas commencer sur le banc parce qu'en fait tu reviens avec ton genou bionique là, Wolverine, tu vas faire gaffe, il y a pas de problème. Conley, en fait, tu vas de nouveau avoir les ballons, puis ça se trouve le match d'après tu auras de nouveau 0 minutes parce que je sais pas quoi, ça sera comme ça, il y aura pas de problème.
Shannon y rentre.
Leur effectif, il est profond, il est costaud dans le sens où contre quasiment tout le monde. Alors on verra s'il passe à Antonio, on verra peut-être Tarpe contre Casey par exemple et tout, mais dès le début ils l'ont fait contre Denver et là ils sont en train de le refaire contre les Spurs. J'annonce pas que les Wolves vont passer les Spurs, mais je dis juste que ça va être compliqué pour les Spurs, honnêtement. Parce que Jaden McDaniels, il va pas se mettre à mal défendre De'Aaron Fox.
Non.
ça n'arrivera pas.
Non, non.
Peut-être que Fox va se mettre à mieux attaquer de McDaniels, mais je veux dire que McDaniels défendre
non, ça
Fox, ça n'arrivera pas. Et Gobert, il va pas se mettre à être moins chiant. Hein.
Et puis même les Jalen Clark, quand il rentre maintenant, parce qu'il a, il a retrouvé des minutes depuis quelques matchs,
c'est un
dog, c'est incroyable. Non, leur groupe est trop complet, le système est trop complet. Et je me permets.
Finch, il est bon. Hein.
Ouais. Ah ouais. Bah moi je l'ai toujours bien aimé, je sais que c'était peut-être pas le cas de tout le monde, etc. Mais
parce
moi,
qu'il a déçu dans des moments. Et l'an dernier, alors, contre Oklahoma, c'est dur, il patauge de ouf. Lui, l'équipe, ils perdent des ballons. Je pense que c'est ça qui a marqué aussi le truc, genre un peu définitif. Le côté. Le jour-là, c'était pas la bonne heure pour Chris Finch.
Ouais, mais il amène un vrai système et je trouve que j'avais vu une interview de Nickel Alexander Walker qui est parti depuis et qui dit que jouer sur. Sous Finch, c'est différent de tout ce qu'il a connu dans le basket et que c'est vraiment ce qui l'a fait le devenir un meilleur joueur.
C'est hyper intéressant pour aller vite. C'est tu joues sur tes forces.
Ouais.
C'est ça en gros pour résumer.
Ouais, clairement. Clairement. Et puis c'est dur d'intégrer sa rotation, mais une fois que tu y es, il arrive à te donner confiance un maximum. C'est dur pour les jeunes, mais en fait, ça fait que quand tu arrives enfin à arriver dans l'effectif, vu comment il a été dur avec toi, bah, tu es direct au niveau et c'est ce qui se passe là avec les entrées de Challenge Junior de Jalen Clark. J'ai l'impression que demain il fait jouer Béringer et Béringer va faire un bon match. Enfin, c'est quelque chose comme ça.
J'aime beaucoup ce que dégage.
Et je me permets d'enchaîner parce que, en fait, je vais pas le noter sur ma tablette carrément le match. Mais moi, le match qui m'a le plus marqué, c'est le game 4 de Thunder. De Thunder, de Wolves. Oui, il y a les 43 points de Sumnu, c'est clair. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est limite le match qui est presque le plus impactant de ces playoffs parce que c'est là où il y a les blessures. C'est le match d'avant où il y a les blessures, mais c'est justement tu vois qu'ils arrivent à réagir tellement fort.
En fait, c'est un peu le match où on se dit c'est fini Wolves.
Ouais, et puis
avant le match, je parle.
C'est ça.
Et après le match, on se dit ouais, c'est pas du tout fini les Wolves.
Ça, en fait, c'est là où tu te rends compte qu'ils ont un système fort, qu'ils seront difficiles pour n'importe qui. Et puis le match est trop agréable à voir. T'as aussi McDaniels qui fait du bon taf, mais bon, évidemment, avec 43 points d'Ayo, t'as Nazri en fin de match. Enfin, ce match-là, c'est pour l'instant mon préféré de ces playoffs. Enfin, très vite.
Ouais, alors donc après l'équipe, après le joueur, maman son match, j'hésite encore là, tu vois ce que dans un moment, mais il y aura quand même le Celtics Sixers match-up.
Game 7.
On a vu le lendemain la dramaturgie que ça a créé, les débriefings qui vont avec, tout le monde avait envie d'en parler, tout le monde l'a vu. Il y a une tension en fait dans le match parce que les Sixers, le domine, on va dire, mais tu sens que. Moi, tu voyais que Boston allait revenir.
Ouais.
Pas forcément le gagner, mais tu sentais que Boston, que ça allait pas se finir comme ça, que et quel sale en plus quand il se met à pousser là le Garden et tout.
Jamais, il a jamais tombé. Hein,
Embiid, moi je l'ai dit tout à l'heure, donc ça me permet de, je cherchais ce mot comme disent les jeunes, j'aime bien dire ça maintenant que je suis vieux. Non mais on parle d'aura.
Ouais.
Embiid, il a une aura chelou. Mais alors, par contre, qu'est-ce qu'il a une aura
Tu penses que c'est un aura farmer?
Non, Edgecombe un peu plus. Edgecombe, il fait des clins d'œil à des caméras, faut rester sérieux.
J'ai adoré.
Ouais, je dis pas. Mais alors, Tom Cruise, le type,
en plus,
quand même.
Il dit, j'ai pas fait exprès, je sais pas quoi.
Hein, Edgecombe, il y a des miroirs partout dans la pièce. Hein. Il y a des.
On adore ça.
Non, Embiid, c'est encore autre chose. Embiid, c'est un espèce de. En fait, je pense qu'on. Tu sais, c'est super héros. Comment il s'appelle le super héros qui arrête pas de troller?
Mince.
Si,
Jimmy Butler.
Non, mais c'est pas Ant-Man justement.
Deadpool.
Ou un peu Spider-Man, tu vois, ou Deadpool.
Ouais, Deadpool.
Il y a un peu un truc comme ça. C'est à la fois un super héros avec les pouvoirs qui vont avec, et c'est à la fois un espèce de mini troll ridicule merdique. Mais vraiment le troll vicelard, c'est le vraiment les oreilles pointues. Tu vois vraiment le troll quoi, le troll de la forêt. Et c'est le plus gros dégladiateur aussi parce que là l'autre, il fout tout en péril, quoi. Donc, il y avait la dramaturgie autour de ce Celtics Sixers. Et puis, c'est quand même, moi, je trouve, la rivalité de l'Est.
Ouais.
L'Est, c'est quand même hyper attachant parce qu'ils savent pas tout le temps pratiquer le plus beau des baskets. Par contre, ils aiment bien la bagarre, hein. Ça, faut leur laisser. Et là, je pensais, les Wolves, c'est un peu une équipe de l'Est lâchée à l'Ouest.
Bah, t'inquiète, dans 3 ans, ils y sont.
Oui, de toute façon, c'est tout s'aligne tout le temps. Qu'est-ce que tu notes, mon Robin? La wild card?
Oui, c'est ça. Après, je voulais pas te couper, mais
si, il faut. Alors là, n'hésite plus. Hein. Vas-y, prends la.
Je me permettais parce que moi, j'avais 5 mots à écrire. En effet, une wild card, un espèce de concept qui nous a marqué sur ces playoffs.
Je t'invite à montrer parce que je sais même pas comment formuler ma wild card.
J'ai écrit la forme sauve le fond, parce que quand on parlait de ces playoffs, on était assez d'accord sur le terme dramatique. Et notamment il y a une stat qui le prouve bien, c'est que depuis 2014 on n'avait pas eu autant de matchs 6 dans un premier tour playoff. Il y en a eu 6, il y a eu 3 matchs 7, il y a eu des scénarios de dingue avec le choke du Magic, le shoot d'RJ Barrett, le Wolves Nuggets dans son ensemble, les secondes mi-temps des Spurs. Mais en termes de qualité de basket, je trouve que par rapport à l'année dernière notamment, pour l'instant on se régale pas. On espère que ça va monter en intensité petit à petit. Enfin, en fait, c'est pas de l'intensité qui manque, mais j'ai notamment une stat qui est, je trouve, intéressante. Évidemment, la qualité d'un match n'est pas liée forcément à son nombre de points. Mais est-ce que tu sais que cette saison, par rapport à la saison régulière, là, les playoffs, il y a 17 points de moins en moyenne sur les équipes. En 2025, c'était 10. En 2024, 17 aussi. 2023, 10. Et 2022, 8. Mais en fait, tu te rends compte qu'en 2024, donc l'année aussi où c'était retombé à 17, la
Ouais.
seule autre année qui est un peu comparable à un tel
À ce
drop,
qu'on voit cette année,
il y
ouais.
avait vraiment eu un scénario d'une pace qui s'était énormément ralentie. Genre beaucoup plus que les autres années, alors que cette année il y a 7 possessions de moins par match, qui est en fait relativement dans la moyenne, et c'est quand même l'adresse qui chute beaucoup, et ça se sent dans les matchs. Il y a assez peu de. Enfin,
Oui,
on
on
l'a
le
dit,
remarque hein, de toute
en
façon.
fait, j'ai cité les très bons matchs, il y en a pas eu tant que ça en fait pour l'instant. Il y a des matchs
Ça
qu'on
dé...
attend beaucoup, qui restent
Pardon.
serrés, et t'inquiète, et les fins de match sont vraiment intéressantes,
Bah,
mais
c'est tout le paradoxe des playoffs. C'est marrant, ça va un peu rejoindre mon
qualité de
point.
basket.
Les matchs sont moins mathématiquement et même presque spectaculaires. Premier degré ou du spectaculaire, je sais pas comment dire, de la qualité de jeu qui se traduit en chiffres. Ils sont moins bons. C'est sûr. Mais alors, par contre, qu'est-ce qu'ils sont plus kiffants à avoir joué? Parce que l'enjeu.
Ouais,
Et
non, c'est
l'enjeu te fait
intense.
accepter. C'est le calcio des années 90. C'est des bons 0-0.
C'est ça, en fait, les playoffs, c'est ça. Ils sont intenses et dramatiques, donc je me plains pas et vraiment on passe un moment.
Il y a
Mais tu vois, je me
ça.
souviens, là,
Ouais.
le
Mais moi,
pro.
j'adore ça. Hein. J'avoue
Ouais.
que j'adore ça.
Avec un tel écart en fin de match, on dirait pas. Par exemple, l'autre soir, là, le premier carton de Knicks
Là où
Sixers,
je te rejoins, par contre, c'est qu'il y a
c'était
des vrais sales matchs
incroyable.
pour du playoff.
Ouais.
Dans l'autre sens.
Ouais, mais le premier carton, il était vraiment très très sympa à avoir joué. Et quand je l'ai vu, du coup, malheureusement ça a duré qu'un carton, je me suis dit, oula, mais en fait, c'est vrai que depuis le début de playoff, il y a rarement des fois où je me suis fait la réflexion de, oh là, je suis en train de prendre un kiff monstre en termes juste de qualité de basketball et de beauté de ce qui est en train de se mettre sur le parquet.
Ah non, oui, il y a quelques trucs.
En fait, je
Denver
trouve le
Minnesota, je
plaisir
trouve que
dans
le
les
niveau
autres
monte,
trucs.
mais Denver, mais le niveau,
Ouais, mais
parce
c'est
que
moins fort qu'il y a 2 ans cette série, Denver Minnesota.
c'est vrai, ça c'est vrai.
Le
Non, puis là où je te vois, par exemple, il y a des purs Cleveland Raptors un moment dur. Il y a des mi-temps, il y a des quarts
Magic
entiers durs.
Pistons dur.
Parce que le manque d'adresse fait qu'au bout d'un moment, c'est quand même dur, même s'il y a l'intensité.
Celtic
Voilà.
Sixers, le scénario est cool, mais c'est un manque d'adresse et
Ouais,
c'est pas
après Celtics
forcément un
Sixers, moi
banger à regarder.
il y avait tellement d'intérêt, je trouve, pour cette série que ça m'allait.
Les
Je
Spurs, il y a des très belles
réfléchis.
deuxième mi-temps, mais sur l'ensemble des matchs, c'est pas
Thunder,
non plus
Suns,
incroyable.
les Suns ils sont admirables franchement, mais ils sont tellement loin du compte que et Booker en plus c'est pas trop dans la série,
Lakers Rockets, c'est pas magnifique. Enfin, tu vois, on
ouais
fait
t'as
quand même
raison.
un gros tour. Hein.
Mais la dramaturgie emporte tout, c'est-à-dire
Ça,
que
c'est
en
vrai.
fait tu vois un match de merde, mais le dernier shoot de Barrett il rebondit, il fait une Haliburton, il retombe dedans, bah en fait t'as vu un super match.
Façon, je l'ai appelé la forme sauve le fond parce que la
Ouais.
forme est tellement forte qu'on passe quand même des très bons
C'est la
playoffs.
magie des playoffs. Et du coup, j'enchaîne moi.
Bien
Je sais
sûr.
pas si c'est ni lisible ni intelligible. Qu'est-ce que tu lis là? T'arrives à le lire?
Basket de playoff égale logique de match-up.
Ouais. Avec mon écriture de docteur professeur. Bah ouais, logique de match-up, en fait, on le voit, mais on fait toujours la même erreur tous les. Enfin, la même erreur. En fait, en saison régulière, t'enchaînes les trucs, tu joues un peu, et des fois les joueurs disent eux-mêmes, tu sais même pas forcément, tu prépares pas les matchs. Enfin, si, tu prépares les matchs, mais tu prépares pas forcément chaque
Des
match
match-up,
focus,
oui.
voilà, contre ton adversaire. Tu sais à peu près ce qu'ils font, mais on voit, il y a des mecs qui sont pas scoutés, ils viennent de débarquer, on va pas refaire la l'insanity, tu vois, mais il y a un peu de ça, hein, il y a un peu ce phénomène-là en saison régulière, ce qui font qu'il y a des. Atlanta change de formule, et d'un coup, en fait, ils gagnent 10 matchs parce que personne sait comment ils jouent. Et genre, un, comment ça, au Congo, il a un 3 points, il n'y a plus Trae Young, qu'est-ce qui se passe, on cache qui, bon, voilà. Par contre, en playoff, c'est fini tout ça. Les Suns disaient, ils expliquaient, dès qu'on a joué au Oklahoma, là, pourtant, on est sorti du play-in, tout, je sais plus quel joueur disait, ils connaissent tous nos systèmes. Genre Caruso, un peu comme Rondo avant et tout, on fait deux passes, il dit ok d'accord, triple 1 flex, lapin à gauche, tu vois. Ils connaissent, ils bossent comme en NFL, ils bossent la tactique. C'est là où le fait d'avoir des joueurs, j'ai deux points, mais d'avoir des joueurs qui sont dans cette logique de match-up, c'est-à-dire qu'eux, même pour les autres, vont comprendre tout de suite, lui il fait ça tout le temps. Je
Les
pense que
vétérans.
McDaniels, il y a des Mike Conley qui tout le temps vient le voir et lui dit ok, parce que Mike Conley, il est assistant coach là, on va pas se mentir. Mike Conley, il a
Ah, le
regardé.
dernier match, il met 4-3 points, incroyable.
D'accord, mais il est
Mais
assistant coach quand même.
oui, bien sûr.
Il a regardé 60 heures de Jamal Murray. Je pense vraiment. Hein. Moi, en tout cas, je l'aurais fait, tu vois. Il va voir McDaniels et il va dire, en fait, s'il dribble deux fois entre les jambes, il va shooter. En fait, s'il commence à droite et qu'il machin, c'est une feinte, il va projeter son corps sur les hanches. Mets ta main, tu bloques son move, tu lui mets le contre. Tout ça compte. Et les mecs arrivent en t'enlevant tout ce qui est facile en régulière. Et du coup, c'est un peu comme, c'est pas pour faire une métaphore minable, mais il reste que l'os, quoi. Il y a plus de, il reste que l'os et c'est la logique du match-up. Et on le voit. Là, je retombe sur Wolves Spurs par exemple. Ben, sur Wolves Nuggets par exemple. Les Nuggets, Alors, ok, il n'y a pas Peyton Watson et Gordon. Mais moi, ce que je tiens à dire, c'est peut-être même qu'avec Peyton Watson et Aaron Gordon, ils auraient perdu cette série, en fait, peut-être.
Peut-être,
Parce que Gobert, en fait, il enlève tellement de choses à Jokic qu'il n'y a pas de prise à deux.
ouais.
Il n'y a pas les choses qui rendent le jeu de Denver facile et agréable pour eux, je parle, à jouer en saison régulière.
Ça fait des années qu'on le voit, hein.
Murray, il est bloqué. Il est bloqué. Et donc, tu as la logique de match-up contre quelle équipe tu fites plus ou moins bien. Et ensuite, à l'intérieur de ça, dans ces duels entre deux équipes, t'as encore une logique de match-up interne. Et des fois, un ajustement tout seul te refait tourner les dominos dans l'autre sens. Parce... Ouais.
Bon, non, sur les Wolves, je nous en veux personnellement de ça.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on a fait un week pass il y a 3 semaines, on le dit face caméra, les Wolves peuvent battre les Nuggets, et moi je dis même qu'ils vont battre les Nuggets,
ouais.
Et on arrive sur le bracket,
ouais.
Il y a un gros match des Nuggets à la fin de saison contre les Spurs, et on retourne notre...
Mais Robin, moi je suis premier à dire des dingueries à l'oral. Le bracket, c'est le problème, que c'est une forme écrite, j'ai l'impression que c'est comme le bureau de vote, ou je sais pas quoi.
De pas prendre de risque.
Tu vas pas voter Homer Simpson, en fait, alors tu sais qu'il va être élu.
C'est ce que
mais
tu
dans
disais,
les
match-up,
tu dis, ouais.
La match-up, on le savait, quoi. Enfin, y a eu cette logique, et ça s'est vu, en fait. Bon, je ne vais pas te couper, t'avais pas...
Non, non, pas du tout, mais je pense que les gens ont compris, tout le monde a compris. Mais je trouve qu'on... Et c'est ça qui rend tout le sel débat. C'est qu'en fait, si ça se trouve, les Nuggets, il y a un autre tableau, et on en reparlait de leur
bien
défaite
sûr.
À la con. Si ça... ils passent, en fait, j'en sais rien, parce qu'il y a quand même Oklahoma, il y a quand même les Spurs. Mais en fait, ils sont en 7 et ils battent les Spurs. Dès le premier tour, et en fait, ils sont encore là. Ou ils battent contre les Wolves. Les Wolves, ils ont leur numéro, tu vois, ils savent. Alors, on parle que des Wolves pour ça, mais les Lakers, par exemple, je trouve contre Houston, parce que là, les Lakers, on le voit, bon, ils jouent Oklahoma, c'est assez faible, en fait, les Lakers, je pense, sans leur en faire aux gens. Mais contre Houston, Shengun et Ayton et tout, ça marchait pas si mal, en fait, pour les Lakers. Smart, il a trouvé ses positions, et il y a eu cette domination tout de suite. Donc, là, on revient, Randle pour les Spurs, moi, je le vois gros comme une... Franchement, j'ai beau le prendre le problème Rubik's Cube dans tous les sens. Je sais pas comment ils font, qu'est-ce qu'ils vont faire pour empêcher. Alors, faut que Randle soit pas bon, mais sinon, si Randle, c'est compliqué pour les Spurs, et ça pourra peut-être être la match-up qui fait basculer la série.
Rendez-vous dans 2 semaines, mais
voilà.
Ça me paraissait être un très bon point. On va pouvoir enchaîner sur la fameuse séquence, la nouvelle et la dernière de cette émission.
C'est là où je montre mon nouveau jouet, Léonce.
Bravo, Léonce.
Léonce MVP, il a commu tout le monde. Attends, petit moment, solennel. D'abord, vous acclamez Léonce. Vous pouvez même faire pause.
Avant
chez
même
vous.
De voir, hein. Faites-nous
voilà,
confiance.
Faites... Parce que là, c'est la magie est encore frappée. On vous présente ce petit outil.
Le 5 majeur.
Du premier tour qu'on va faire en temps réel. Alors d'abord.
En l'occurrence, du premier tour, mais si ça vous plaît, on va d'abord faire la séquence,
ouais.
Évidemment. Ça pourrait revenir dans le week pass
plus
tard,
parce
la saison prochaine.
Moi, je vous préviens, j'ai des drafts. J'ai le 5 majeur des gauchers dyslexiques, par exemple. il est déjà fait, il est déjà prêt. Donc on y va. Là, en gros, je prends.
Moi, avant mes 5 ans, quand je découvrais pas encore que j'étais droitier, je pense que je suis à la main. mais oui, on va faire forcément un 5 majeur du premier tour, nos joueurs préférés. Vous nous connaissez, derrière, il y aura un petit 5 mineur des joueurs qu'on va un petit peu moins flatter, disons-le comme ça.
Ouais.
On va vous laisser faire apparaître
Faites-le
au fur
avec
et à
nous.
Mesure.
Faites-le
bien
avec
sûr.
Nous en temps réel. Même si évidemment on n'est pas.
Qui est-ce que vous mettriez en meneur de jeu, vous, sachant que nous on en a deux en fait, hein. Notre arrière.
Oh, on a un
bac
court,
jeu.
Mais ouais, il
oui.
y en a un qui est un peu plus meneur que l'autre à mon goût, même si les deux jouent meneur. Mais
du coup,
il y a pas de. Oui, on va pas trop perdre de temps. Moi, je trouve quand même que là, au début, playoff un poil compliqué, mais patron de chez patron. Je vais voir ce que vous en pensez, mais en meneur, moi, je mets ça, Robin.
Moi, je suis totalement d'accord.
Ok.
Il m'a halluciné dans les trois derniers matchs.
J'avoue que je te rejoins et on va aller relativement vite. En fait, notre backcourt, hein, on va pas se... nous, on est des gens simples.
t'as Shai qui est trop fort sur l'ensemble et t'as Cade qui, sur le retour, je croyais sur les trois derniers matchs, il tourne à 60% à 3 points. Il fait des money time de fou. Le dernier match, il finit en 30-12, je crois.
Ouais.
Enfin, il a montré. La Dias, sa série de l'année dernière, était très forte, mais là, il a montré dans une série de playoffs que c'était un des 7-8 meilleurs joueurs de la planète et. Et un point, c'est tout, quoi.
Ouais, et je vois. Franchement, là, on pourra aller vite dans les arrières. Il y a d'autres noms comme ça.
C'est Chupoli, hein.
Mais il y a d'autres noms comme ça, mais je trouve que sur le backcourt, ça me paraît assez évident.
Ouais. Bah ouais.
Mais vraiment,
ouais,
hein, tu vois, bah, on a vu les Spurs, il n'y a pas. Castle ou Harper font des bons playoffs. Bah, Fox, c'est plus moyen, mais pas de les déloger.
En fait, on le dira après, on a des mentions.
Oui, mais
qui
là,
rentrent
on n'a
pas
d'arrière en
on
mention.
On n'a pas d'arrière en mention.
Voilà.
C'est eux deux.
C'est pour ça qu'Ozel. On va faire les deux en même temps parce que c'est un peu les deux postes déliés. Il y a des mentions, commencer par là. On a pensé à Udi Anunobi. On a pensé à McDaniels. McDaniels, pour moi, il gratte très, très, très fort. On en a déjà beaucoup parlé.
Je sais pas qui gratte le plus, hein, parce qu'Anunobi, pour moi, c'est peut-être le meilleur joueur des Knicks sur la série.
Mais moi,
énorme Udi Anunobi.
Moi, je rends hommage à mon camarade d'arthrite. Je suis désolé.
On a oublié.
Bron. Ok, les Lakers, il y a des limites et tout, mais justement, il y a
un
des
contexte
limites.
Qui fait qu'il
mais
est obligé d'être dans 5.
Ouais,
hein.
Bref, j'ai même pas envie.
Il a emmené Luke Kennard, Marcus Smart. Non, incroyable.
Non, mais il emmène qui tu veux, où tu veux, c'est n'importe quoi.
Bravo.
Et je te propose quand même en ailier fort, Scotty Barnes.
Ouais, c'est le seul gars qui a perdu sa série, mais trop fort, trop impressionnant.
Trop fort, Scotty Barnes. Et puis, c'est le turfu, cette espèce de basket point forward, mais qui est une sorte de grand île en costaud avec du Matrix. Matrix Sean Marion, mais avec aussi quelque part sur des faces du Draymond Green. Joueur unique, unique et atypique, mais en fait, qui est en train de redéfinir un peu ce rôle de point forward, je trouve.
Et puis
fascinant.
Moi, je suis obligé de parler personnellement. Je trouvais déjà trop fort, mais je sais pas pourquoi, j'avais pas trop d'accroche avant cette série de playoffs. Il me faisait pas grand chose d'une certaine manière.
Bah, il
est un
peu
manière.
Chelou en plus, hein, Scotty Barnes.
Ouais, mais au final, c'est un chelou moi, qui me fait marrer.
Ah ouais, moi je l'adore.
Et là, je suis vraiment rentré complètement dans le wagon, mais défensivement, il m'a halluciné. On parle beaucoup de Wemby, de Gobert, etc. Mais ce qu'il a fait dans ses playoffs, Oscar Thompson, pour moi, j'ai ce petit groupe de 4 comme ça, à l'instinct qui se dégage. Bon, avec tous les défenseurs du Thunder, qui je trouve au-dessus du lot, il a été exceptionnel en attaque. En fait, il y a 7 matchs dans cette série. Il y en a au moins 5 ou 6 où c'est le meilleur joueur du match.
Et puis quand il met un peu de temps à 3 points à mi-distance, ça devient vraiment une machine de guerre. Et son shoot va encore s'améliorer. Tiens, juste en vrac pendant que tu te repoudres.
Ouais.
non, mais tu sais que la mention bas courte limite, et c'est là où le Thunder ils sont dégueulasses, c'est limite DJ Mitchell.
Ouais.
Non, mais en fait, franchement, c'est pas drôle.
Non,
mais tu sais que DJ Mitchell, il est. Moi, tu me dis mon arrière remplaçant là de mon 5 idéal machin, c'est DJ Mitchell. Je te dis, bah ouais, ça va pas être Derrick Brand, mon pote. Hein. Pivot, t'as qui?
Pivot, justement, on n'a pas mis McDaniels, fallait mettre un mec des Wolves et franchement, la série que fait Rudy Gobert.
Hein.
Bah, là, quand je vois 5 majeurs, j'ai
là,
envie de te dire.
Là, c'est Tour Eiffel, météo des Français. Hein.
Moi, seulement sur le premier tour, on t'a Shai qui a un cas un peu particulier parce que il était trop fort et ça durait pas très longtemps. Mais tu peux discuter du fait que peut-être que Rudy Gobert est le meilleur joueur de playoff au premier tour.
Bah, il a pris Yopé Jokic, il en a fait du petit lait.
Ouais, non. Franchement. C'est fou comme phrase, hein, mais moi, tu me dis que c'est Rudy Gobert ton MVP du premier tour des playoffs, je te regarde pas du tout comme un fou, moi.
Rudy Gobert est mon MVP du premier tour des playoffs.
Je comprends parfaitement. Je sais pas si.
Non, l'impact.
Tu peux être d'accord. Hein.
Après.
Shai, quand même.
Non, il y a une petite discussion sur l'impact, mais il y a des régularités et on est les premiers. C'est un cas très particulier, c'est Wemby.
Ouais.
Qui, quand même, fait des trucs. Mais. Je trouve que Rudy mérite dans le sens où Rudy, c'est plus inattendu. Et puis, c'est fondamental dans une série qui n'était pas gagnée d'avance. Alors que Wemby, bon, entre guillemets, on va attendre pour ça.
Il rate des matchs sur le premier
voilà,
tour.
Voilà, et puis c'était Portland en face.
Ouais.
L'autre c'est un MVP. D'après pas mal de monde, c'est un mec qui était en train de bouleverser des hiérarchies à son poste, des hiérarchies all-time et tout. Et il a tout fumé. Est-ce que tu veux qu'on se mette un petit sixième homme? Moi, je te propose quand même entre OG, McDaniels. Je pense
Paul
aussi.
George.
Écoute, moi, je mettrais bien, Paul George en sixième homme. Juste pour rigoler.
Okay.
Ou alors on met OG quand même, parce que c'est le vrai meilleur.
Ouais,
non, Paul George, c'était pour la vanne. J'adore. J'essaie de chercher un jeu de mots avec sixième homme et Paul George.
la vanne, Paul George pourrait mériter. Hein. Il est incroyable sa première série, mais ouais, moi je serais sur Anunobi aussi, ouais. Personnellement.
Le joueur préféré de Dan Hathaway.
C'est
t'as
vrai.
Suivi cette histoire? Ouais,
Il y a aussi une gymnaste, Lingyu, je crois.
Ouais.
Qui a souvent son maillot, etc. Et je sais qu'il se fait vanner dans les vestiaires vis-à-vis de ça. Mais oui, Paul George.
Mais là,
série,
le fond court d'Enix, par contre, c'est devenu. C'est eux en fait Hollywood là maintenant.
Non, c'est très très sale.
Pardon,
c'est très sale ce qu'ils sont en train de faire.
OG.
Et si en plus, Watson se met en route comme le dernier match.
Moi, je parlais un peu sur le côté des stars. Il y a un petit côté un peu. C'est pas tout à fait Menix ça. Il y avait des stars avant, mais là, je trouve qu'il y en a beaucoup trop. Mais bon, bref, c'est un peu trop de paillettes pour le grit new-yorkais. À mon goût. Qui
content.
On met en coach parce que moi, sinon je tape Doug Christie, mais on va arrêter là la blague. C'est qui toi? Moi, j'ai l'impression que
c'est un peu dans le côté Gobert, mais Chris Finch,
Hein.
Il a mis en place une tactique qui a été extraordinaire, quoi.
Il y a pas de Y, on est d'accord à Chris Finch. Hein.
Non, c'est ça.
Hop,
ça s'écrit comme ça.
Chris Finch.
Bravo à lui.
Donc ça, c'est notre nouveau joujou. Une sorte de on peut faire des 5 majeurs comme ça, on vous l'a vu en temps réel, on peut aussi vous les dévoiler tout d'un coup, parce que par exemple, pour gagner du temps, moi je vais faire un truc Robin pendant que
donc j'enchaîne un petit peu.
Ouais, si j'écris ça par exemple.
Je sais pas pourquoi j'ai envie de parler de ça, mais je vois Rudy Gobert, on en a parlé beaucoup positivement. Sur le premier match des Wolves, faut quand même faire gaffe au lancer franc. C'est aussi pour ça à mon avis qu'ils sortent du terrain, mais tous les Wolves en général, ils font une performance au lancer franc qui est cata, ils auraient pu gagner de bien plus large contre les Spurs s'ils les avaient mis. Ce sera quelque chose à surveiller dans la suite de la série. Et oui, en effet, ce visuel de Léonce va nous servir. J'y vais, t'inquiète. Va nous servir pour plein de choses et on pourra faire des jeux avec. les 5 mecs draftés entre 10 et 15, enfin, on peut faire n'importe quoi. Et là, on va en profiter pour faire un 5 mineur, donc vraiment les joueurs qui nous ont déçus dans ces playoffs. Et franchement, il y avait quand même du gros candidat. Hein.
Comme dirait le boomer que je suis, je me familiarise avec l'outil.
Non, bien sûr, bien sûr.
Tu dis parfois les internets, toi, ou t'es pas vu à ce point-là ?
J'ai pas, ouais, non, j'ai pas passé ce cap-là encore.
Et tu
désolé.
Mets les mains dans le dos quand tu marches parfois ? Ça commence ? C'est quoi tes premiers signes de vieillesse en fait ? Parce que moi, je me suis surpris à parfois faire comme les vieux Rital. Je suis pas encore à regarder des heures les chantiers.
Est-ce que t'as des fois tu mets les pouces dans les boucles de pantalon là ?
Non, parce que j'ai jamais de pantalon. Enfin, c'est pas mon genre de pantalon. Non, je crois que parfois je me bats les pieds dans le dos. Parfois, je dis à ma femme, je dis, oh, j'aimerais bien juste avoir un chien et faire des tours du lac.
C'est pas mal.
Et puis parler à personne. Toi, t'as pas encore de site de vieux cons comme ça qui arrive ?
Bah, je sais pas si ça passe parfaitement, mais mes potes m'appelaient un peu le vieux parce que je suis pas très divers, mais un de mes kiffs, j'ai toujours un plaid sur moi, j'ai toujours un TVR à la main et j'ai souvent les pieds sur le radiateur. Je crois que c'est une position qui est quand même assez. Tu vois, dans le.
Attends, refais-la moi.
J'ai toujours un plaid sur moi, toujours un thé à la main et toujours des pieds sur le radiateur.
Mamie camisole, n'importe quoi. comment on appelle ça ?
Camisole de force.
Non, pas camisole. C'est quoi ? Non, mais chercher le goût du thé là. Mamie. Bergamote quoi.
Oui, bergamote. J'avais la coquillotte en tête, mais c'est pas ça. Camomille.
Mamie camomille.
Ouais,
je vais t'appeler comme ça maintenant.
Avec plaisir.
En fait, t'es pas du tout Robin, t'es Alfred.
Bah, j'ai. Ouais, j'ai.
Batman, je suis Batman. Ok.
normalement,
c'est bon. Merci d'avoir meublé.
Avec plaisir.
J'ai pas encore tout mis. Ça, c'est le 5 mineur du premier tour.
Ah bah bravo.
Léon MVP. J'ai mis ça. Est-ce que ça te va, Robin ? Là, je t'avoue que je te prends un peu mis au dépourvu.
Non, on en avait parlé ensemble là-dessus en amont. Oui, moi, je trouve ça assez magnifique. On a un bas court 100% chauve. En l'occurrence,
ah oui,
je sais pas pourquoi ça me vient. Un Jalen Suggs qui avait plutôt bien commencé la série, mais qui a l'inverse de Kate Cunningham. Il a fini en posant.
Moi, je trouve qu'il fait des bonnes choses, mais le shoot, c'est trop, quoi. C'est trop maladroit. Trop.
Et son game 7, c'est une catastrophe. Son game 6, même son game 5. Non, en vrai, très compliqué. Derrick White, on en a un peu parlé. C'est plus compliqué pour les Celtics quand il est seulement l'ombre de lui-même, comme ça a été le cas.
Ouais. Tu sais qu'il y a Nickel Alexander Walker qui m'a chatouillé les poils du nez. Hein.
Oh bah il y a un sixième homme hein, qui arrive. Mais
ah
oui.
Bah ouais, tiens, allez. Vas-y.
Bah c'est vrai que chez les Hawks, McCollum il a été énorme. Jan Johnson c'était pas dingue, mais.
Christian Brown, on est d'accord que c'est Wemby à l'unanimité. Christian Brown à l'unanimité.
C'est
hein,
MVP. Alors, je sais pas si vous avez vu passer cette côte hallucinante de Christian Brown. Là, c'était hier, je crois.
Ouais, je crois.
Il a dit, je crois que je l'ai de tête, je suis le leader de cette équipe. Je suis le leader vocal de cette équipe, mais il avait dit juste leader avant. J'ai pas réussi à être assez bon individuellement, ça bravo. J'ai pas réussi à préparer mon équipe pour une confrontation aussi compliquée.
Ouais, je sais pas.
Mais qui es-tu ?
le Gorafi se met à faire de la NBA en fait. Je me suis dit, c'est chelou d'inventer des déclarations de Christian Brown pour le Gorafi. Ils vont loin, c'est voilà.
Déjà que parmi ces 5 là, c'est peut-être la série la plus nulle de toutes, et même franchement, c'est assez globalement. Mais tu rajoutes cette côte sur le. C'est même plus une cerise sur le gâteau, c'est un pommier. Je sais pas, c'est
complètement. pommier sur le gâteau. Et puis Christian Brown, il est écrasé en dessous. Ingram, juste pour. Bon, c'est parce que aussi, je l'aime bien, je vais pas vous mentir, mais Ingram, ouais, c'est raté parce qu'en plus, Dean White sur le dos, il s'en défait pas. On a vu après
avant la blessure.
Même avant la blessure. Mais même si les autres essaient de dire ce qui est assez vrai quand tu vois les matchs qui jouent, en fait, il y a une petite gravité quand même pendant Ingram. Mais surtout, moi, je trouve que je mets Ingram là-dedans parce qu'on a vu que, en gros, quand il joue pas et qu'en fait Barrett met un peu de shoot et que t'as du Jamal Sheed, tout ça, c'est vachement mieux pour Scotty Barnes et qu'en fait c'est vachement mieux pour les Raptors. Et je commence à me demander la compatibilité, le fit, parce qu'on le sait en NBA, le fit c'est mieux que le talent.
Ouais.
Ingram a beaucoup de talent, mais à un moment, il va falloir. Il fit pas. En fait, est-ce qu'il fit tant bien que ça aux Raptors, tout ça ? Alors,
c'est pas sûr que ce sera.
Est-ce qu'il bouge d'autres pièces avant ? Parce que si ça se trouve, tu libères de la place avec un transfert de Pottle et de Barrett, et puis merci des Kings de prendre nos merdes là. Mais voilà.
Et puis pareil, dans les coachs, quand je crois qu'il prend 9 tirs sur le premier match, il dit on peut pas gagner si je fais ça, et que le game 3 ou 4, il le gagne prend 9 tirs.
Après,
enfin, des fois, il y a des douces ironies quoi.
Non, bien sûr, mais alors, par contre, Ingram et la communication, ça fait 12, hein, je pense, ils s'en foutent. Autre truc, Jalen Duren au pivot, parce que quand même. Alors, moi, je t'ai dit qu'il allait faire un peu mieux, je pense, dans la série là. La série pour Orlando, pour différentes raisons, est très compliquée. Mais alors on n'est pas voici, hein. Mais en fait, vous avez tous compris quand même que il jouait contre le nouveau gars de son ex.
Ah ouais, ouais,
qui mettait des dunks donc de Wendell Carter sur Instagram. il se prend.
Angel Reese, pour ceux qui l'ont pas.
Ouais, il se prend le plus beau poster depuis un moment en playoff.
Ah oui, Jamal Kane, extraordinaire ce dunk.
Hey, j'ai bondi en live.
Ça aurait pu être ça l'image du premier tour carrément.
C'est vrai. En fait, ça aurait pu être parce qu'on a plus parlé d'Embiid, mais moi je tenais à parler d'Embiid, mais ouais.
En plus, ça clôt le match quoi, quand il le fait.
Ça clôt tout. Et puis Durant, il tombe. C'est-à-dire qu'il tombe tellement un peu à retardement, puis il tombe sur les fesses, puis il glisse, et il peut même pas. Tu vois, il va même pas le pousser tout. Il est là, genre, vas-y, c'est pas ma série, mon pote. Jusqu'au bout, le calice jusqu'à la ligue.
Non, sa série, elle est moche.
Comme on disait dans Hélène et les garçons.
Non, elle est complètement ratée, hein, tout simplement. Et franchement, je n'avais pas trop de doute sur le pivot. Ok, il y a Jokic qui passe à côté par rapport à ses standards, mais c'est pas à ce niveau-là. Non, Jalen Duren, va falloir qu'il fasse mieux face aux Cavs parce que là, la première impression, enfin, il est en playoff la saison dernière, mais sa première impression dans une série de playoffs attendue, vraiment, il est quand même complètement passé à côté. Et en plus, il me semble qu'il renégocie un contrat, non ? Ou je dis n'importe quoi.
Je sais plus. Oui,
il va renégocier un
contrat. Bah, il va finir aux Bulls, alors.
Non, mais ça va pas l'aider, ça.
Non, il a perdu de l'argent.
Pour le sixième homme, on a parlé.
Les playoffs sont pas finis, attention. Pour le sixième homme, j'étais en train de taper Alexander Walker, mais tu pensais à quelqu'un d'autre ?
C'est entre lui et peut-être Donovan Mitchell. T'as parlé des mecs qui ont.
Je trouve ça un poil dur pour Donovan Mitchell parce qu'en fait.
Mais il aurait pu.
Tu sais que Mobley, moi, il me déçoit aussi. Le manque de... Parce qu'en fait, c'est pour ça. Les Cavs, en fait, comme ils sont plusieurs à me décevoir, je me dis juste, Mobley ne sauve pas la baraque. Mais je trouve que c'est même pas la plus grosse déception de son équipe, moi.
Ouais, après Mobley, il est essentiel dans les matchs 5 et 6 qui sont importants pour les Cavs.
Ouais, mais encore hier, on le voit, par contre. Je sais pas, moi, je suis... En fait, mais c'est peut-être... C'est pareil, on a tellement annoncé le futur Kevin Garnett que moi, il y a de la discrétion qui me plaît pas chez Mobley dans le jeu, quoi.
Ouais, mais Mitchell, pour moi, il réussit à peu près son match 1 et derrière, okay. C'est une cata tout le long, quoi.
Nickel Alexander Walker parce que quand même quoi.
Parce que s'il est bon, sachant que les Hawks font 6 matchs, les Hawks peuvent.
Et coach, je me suis permis parce que moi je trouve qu'Udoka, on parlait du stud, ça pourrait être Mazzulette.
Ouais.
Ça pourrait être Doug Christie juste parce que j'avais envie de troller le truc.
Bien sûr.
Mais voilà, écoute, ça c'était l'outil 5 majeur. On va s'arrêter là. Je pourrais faire joujou 5 majeur avec pendant des heures. Donc si jamais vous voulez voir ça. Pourquoi pas un soir, on peut même tutcher des 5 majeurs si ça se trouve.
Ah, clairement. Vous nous direz ce que vous pensez de ce concept si vous le voulez.
N'hésitez pas.
La saison prochaine dans le Week Pass.
Nous dire globalement ce que vous avez pensé de cette émission qui est un peu longue, on s'excuse, mais il fallait à la fois qu'on. Parce que vous l'avez compris, il n'y aura pas de débrief à proprement parler là, des matchs de l'année. On l'a fait en news.
Ouais.
On a mis un Week Pass derrière en fait.
Et puis c'est un spécial Week Pass. Ça, on vous le voyait depuis le début des playoffs, ce sera pas chaque vendredi comme ça pendant les playoffs. Peut-être qu'il y en aura un ou deux autres qui tomberont.
Il y a des Week Pass sauvages qui vont apparaître dans le Pokédex, ça, on peut vous le dire au fur et à mesure des playoffs.
Des émissions spéciales, c'est pour ça que c'est un peu plus long.
Vous l'avez compris, là, on a fait un peu au moment où on passait au deuxième tour. Est-ce que au moment des finales de conf, on va voir et tout. Mais n'hésitez pas quand même toujours. Le petit problème technique, ça a relancé le Big Pass, mais c'est bien. Nous voilà, on est toujours là. Pendant que tu parlais, je voulais juste afficher discrètement l'instant tech. Je suis désolé,
aucun problème. Mais
là, je le refais pour te.
non, c'est ça. Enfin, Alaphilippe, du coup, visait pas forcément le maillot jaune en fin de tour, même si il l'avait au final défendu jusqu'au bout. Mais du coup, il était à 15 secondes comme ça de cette deuxième place qui aurait pu lui donner le tour. Et là, cette blessure, en plus, c'est un coup de guidon dans la cuisse qui crée une lésion musculaire. Enfin, la blessure est un peu nul quoi sur le papier et vraiment ça avait été tellement plaisant de suivre ce tour que cette fin là elle avait quand même été très crève-cœur.
Ouais, non, je comprends. Du coup, oui. Pardon, mais pour finir de chez finir, t'as une petite tech pour avant la prochaine émission ou pour donner rendez-vous pour que vous puissiez rebondir en commentaire. Moi, je vous fais des cœur-cœur avec les doigts que je sais toujours pas faire. Vas-y.
Moi, tu sais quoi, je vais pas la chercher loin. Justement, je m'en suis voulu de pas avoir tenu mon propos que les Wolves allaient sortir les Nuggets. Je sais pas s'il y en a qui ont vu la vue de la rédaction.
Aïe,
je suis le seul qui a en mis les Wolves contre les Spurs. Moi, je pense qu'ils vont le faire. On a beaucoup parlé d'eux.
Ah, tu fais l'anti-France comme ça, toi.
J'adore Wemby, vous le savez tous. Mais en fait, c'est mes deux équipes préférées des playoffs qui restent là. Donc, en fait, celui qui gagne cette série, j'espère qu'il va au titre.
Mais c'est ton petit Aiwo qui te pervertit ton cœur.
Ah, mais j'ai toujours aimé les Wolves, moi. Et puis même
Terrence
Shannon.
Bien sûr, ouais,
Terrence Shannon, ça vient d'Illinois. Si, j'adore Anthony Edwards. Allez, les Wolves.
T'as encore un argument que j'enlève le violon, ouais. C'est Chris Finch, tu vas nous dire que t'as toujours cru en Chris Finch.
Non, mais vraiment, ça a toujours été une petite équipe de l'Ouest.
Cœur absolu. J'avoue. Je rate pas leur match en live, il y a un truc qui se passe. Voilà, tu veux une autre tech NBA ou pas NBA? Parce que j'ai
ouais, c'est quoi, finition sur un truc pas NBA, ce sera très Week Pass.
Le banh mi est le meilleur des sandwichs.
Okay.
Je dis pas ça parce que je viens d'en manger avant l'émission et que ça s'est bien passé en fait, mais voilà, le banh mi en fait, quand tout est réussi, quand t'as l'équilibre des crudités, du piment, de soit ton bœuf citronnel, soit ton porc laqué, le pain. En plus, symboliquement, il y a quelque chose qui se joue de rencontre des cultures là dans ta baguette. Il y a quelque chose de voilà. Esthétiquement, c'est très joli. Non, tu me disais les yeux, oui, ça joue. Il y a des sandwichs qui sont bons, mais ils sont pas beaux.
Non. Non, mais oui, mais ils peuvent être aussi.
Tu vois, le vieux pain bagnat, quand le thon a un peu séché et l'œuf est trop dur, il va être encore bon, mais pas beau.
C'est clair.
Le banh mi, il arrive, il est...
Le banh mi a son élégance. Ouais, le banh mi, il a un costume 3 pièces.
On va s'arrêter là, parce que sinon, on s'arrêtera jamais. On vous fait des gros bisous. On espère quand même, c'est important, en ce moment, dans ce monde, pas toujours, mais que tout le monde va bien,
ouais,
que vous prenez soin de vous, que vous perdez pas trop de temps sur les réseaux à vous battre contre des moulins avant, ou à prendre la tête pour rien. En plus, les premiers degrés, l'a encore vu, tout le monde, ça rend des fois débile, on se prend la tête pour rien. Qui fait les playoffs?
Que de l'amour.
Non, mais vraiment. Et alors, qui fait les playoffs? Moi, je finis, c'est vraiment le meilleur moment, je trouve, le fin du premier, début du deuxième tour. Après, ça se calme un peu. Après, il y a un peu moins d'équipes. Et je trouve qu'émotionnellement, surtout quand t'as des équipes, t'as un peu moins de joueurs et tout. En général, il n'y a plus les Kings.
Non, bah, c'est pas en général. Hein.
Ça fait plus 6 mois. Ouais, voilà. Mais tu vois ce que je veux dire. Donc là, on kiffait de ouf. Essayez encore de pas trop niquer votre sommeil, mais ça vaut le coup.
C'est ça.
Robin?
Non, non, ça fait trop plaisir. Et entre nous, on va se retrouver. On sait pas quand pour un week pass, s'il y en a un autre dans les playoffs, on verra.
Surprise, surprise.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'on se voit déjà ce dimanche pour la loterie. On espère vous y voir.
Ah oui.
On vous fait tous de gros bisous.
La loterie,
les Bulls et les Kings dans le top 4 en live, ça serait magnifique.
1-2, on vise le 1-2, Robin. Allez, vas-y, on y va. Adam,
salut tout le monde.
Adam, fais-nous plaisir, fais-nous kiffer.